Vous êtes sur RTL.
Jérôme.
Allez, bon week-end. On se laisse là-dessus. Hein. Allez, à lundi.
À toute l'équipe de nos petits matins qu'on retrouve lundi dès 4h30. Allez, nous allons ce matin revenir sur les annonces faites hier par le Premier ministre. Tout cela tient en un point, une indemnité inflation de 100 euros pour les Français qui touchent moins de 2000 euros net par mois. Le critère est donc bien celui des revenus. Dès 7h15, réaction d'un professionnel électricien chauffagiste. Il passe sa vie à bord de sa camionnette et il est donc directement concerné. Et puis nous écouterons aussi le président de la Confédération de l'artisanat. Et puis bien entendu, analyse de François Langlais à 7h38. François qui estime que l'État ne peut pas tout. Si vous aimez les piqûres, vous allez vous régaler puisqu'à partir d'aujourd'hui, la double vaccination est possible. Le rappel Covid d'un côté, le vaccin antigrippal de l'autre. C'est pourquoi, pour vous rassurer et vous expliquer tout cela, Benjamin Sportouche reçoit ce matin le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer. Il sera 7h40 au chapitre des douceurs, notre rendez-vous avec Cyril Lignac juste avant 9h pour une recette de pot-au-feu aux couleurs de l'automne. Nous sommes le vendredi 22 octobre 2021. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, un coup de pouce financier pour 38 millions de Français.
Un chèque de 100 euros, prime exceptionnelle pour tenter de contrer la baisse du pouvoir d'achat et la hausse du prix des carburants. Le début des vacances de la Toussaint marqué par une grève surprise à la SNCF. Un TGV sur 3 annulé ce week-end en direction de l'Ouest. Dans ce journal également, la reine d'Angleterre hospitalisée pour des examens. L'acteur américain Alec Baldwin, auteur d'un coup de feu mortel sur le tournage d'un western. Le jugement attendu aujourd'hui pour Karim Benzema dans l'affaire de la sextape. 10 mois de prison avec sursis ont été requis. Et puis le dernier tube de la chanteuse belge Angèle, une déclaration d'amour à Bruxelles.
La politique, Olivier Bost.
On va donc en parler. Une grève à la SNCF, c'est une forme de retour à la normale qui cache un changement d'atmosphère pour la présidentielle.
Vous nous expliquez tout cela dès la fin du journal.
RTL Matin.
Voilà l'annonce hier soir de Jean Castex aux 20h de TF1.
Nous allons décider d'une sorte d'indemnité inflation de 100 euros. C'est une indemnité classe moyenne, si vous voulez, en quelque sorte, qui sera versée aux Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. Qui ? D'abord, parce que c'est notre première cible, les gens qui travaillent, c'est-à-dire qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, les salariés, les indépendants, les artisans, les agriculteurs, les chômeurs en recherche active d'emploi, les retraités aussi, ce sera automatique. 100 euros par personne gagnant moins de 2000 euros net.
Voilà, après plusieurs jours de réflexion pour contrer la hausse des tarifs à la pompe, il ne s'agit finalement ni d'une baisse des taxes, ni d'un chèque carburant, mais plutôt une prime exceptionnelle de 100 euros, Christophe Bourou.
C'est une aide qui va bien au-delà des automobilistes puisqu'elle devrait concerner 38 millions de Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois, qu'ils possèdent ou non une voiture. Cela concerne les salariés, les indépendants, les demandeurs d'emploi ou encore les retraités. Et concrètement, il n'y aura aucune démarche à entreprendre. Pour toucher le montant fixé à 100 euros, tout se fera automatiquement. Pour les salariés, par exemple, le versement sera effectué directement par l'employeur sur le bulletin de salaire et cela dès la fin décembre. Pour les indépendants, cela se fera via l'URSSAF ou encore via la caisse de retraite pour les retraités. Et cela dès janvier, tout comme pour les agents de la fonction publique. L'idée est d'abord de compenser le surcoût des pleins d'essence, soit environ 80 euros pour un automobiliste qui roule 14 000 km par an, mais aussi 20 euros pour compenser, eh bien cette fois, la hausse des prix comme les produits alimentaires. A noter enfin que ce montant de 100 euros sera distribué par personne et non par foyer.
Les explications de Christophe Bourou pour RTL.
Attention si vous avez prévu de prendre le train pour ce début des vacances de Toussaint.
Un TGV sur 10 annulé en direction de l'Ouest aujourd'hui. Ce sera même 1 sur 3 demain et dimanche. Grève surprise des cheminots qui sont en train de négocier pour améliorer leurs conditions de travail. Malgré tout, vous serez nombreux à vous mettre au vert durant ces deux prochaines semaines. Des vacances à la campagne, à Aurignac, dans les Petites Pyrénées, en Haute-Garonne. Patrick Tégéraud.
En haut du coteau, au-dessus du village, Eric a fait construire cette petite maison il y a 17 ans, quand il s'est installé ici avec Régine.
C'est une maison de plein pied, avec un jardin entièrement clos. Le matin, on a une très très belle lumière, avec le soleil qui éclaire toute la chaîne. Et on voit du Cagir, même un petit peu l'Espagne, puisqu'on voit le pic de l'Aneto, et puis jusqu'au pic du Midi.
Dans le gîte, on trouve des portraits des vaches de la propriété. Alors tout le monde veut aller les voir. L'attraction très appréciée des familles, c'est le changement de prairie.
On va donc les faire passer de la prairie de droite vers la prairie de gauche. Et elles le savent. Donc elles nous attendent de pattes fermes.
Allez les cocottes, on va manger. Allez, venez. Quand on séjourne ici, l'activité principale, c'est la balade, avec 150 km de sentiers balisés.
Des sous-bois, des hauts de crête, des sentiers sur le patrimoine, où on passe par des petites églises, des lavoirs, des choses comme ça. Enfin, c'est très chouette.
On aime beaucoup faire découvrir cette région qui est trop méconnue.
Et puis, il y a le village médiéval, le musée préhistorique, et surtout ces paysages magnifiques des Petites Pyrénées.
Le reportage de Patrick Tégéraud pour RTL.
Belle respiration. La reine d'Angleterre, elle a passé la nuit à l'hôpital.
Âgée de 95 ans, Elisabeth II y a passé plusieurs examens. Marie Billon, vous êtes notre correspondante à Londres pour RTL. Ses médecins lui avaient déjà recommandé de se reposer cette semaine.
Oui, le palais a dit mercredi que la reine avait accepté à contre-cœur de se reposer et d'annuler une visite de 2 jours en Irlande du Nord. Des sources proches du palais laissaient entendre qu'elle n'était pas souffrante, mais en fait, elle était mercredi donc dans un hôpital du centre de Londres pour subir des examens préliminaires. C'est ce qu'a dit Buckingham Palace. La reine de 95 ans a donc ensuite passé la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital, a priori plutôt pour des raisons de convenance, puisqu'elle vit désormais au château de Windsor, qui est un peu à l'extérieur de Londres. En tout cas, elle est rentrée chez elle hier à la mi-journée. Et elle aurait déjà repris le travail tout doucement. Le palais n'a communiqué sur cette courte hospitalisation que parce qu'un tabloïd avait eu l'information et s'apprêtait à la publier. Il n'a pas précisé la raison pour laquelle la reine a dû subir ses examens en urgence. Buckingham Palace estime que la santé de la monarque, tant qu'elle n'est pas gravement en danger, appartient au domaine privé. Le palais ne devrait donc pas partager plus d'informations sur cette courte hospitalisation.
Les explications en direct de Londres pour RTL, Marie Billon. Autre actualité de la nuit, cette fois aux États-Unis.
Alec Baldwin was the one who fired the gun.
Un coup de feu mortel sur le tournage d'un western avec Alec Baldwin. C'est le héros de À la poursuite d'Octobre Rouge qui a ouvert le feu, vraisemblablement par accident. La directrice de la photographie a été tuée, le réalisateur blessé. L'arme était censée être chargée à blanc, selon un porte-parole de la production.
Dans un instant, la fusée Ariane distancée par SpaceX dans la course à l'espace. Restez avec nous, RTL, il est 7h06. Ah ben non, on enchaîne directement, alors allons-y tout de suite. Un témoignage particulièrement émouvant hier au procès des attentats du 13 novembre.
Les proches des victimes sont actuellement auditionnés. Un grand-père a raconté comment son petit-fils est sorti miraculeusement indemne du Bataclan, Anne Le Hénaff.
Il était au concert avec son casque anti-bruit, sa mère Elsa et sa grand-mère Patricia. Les premiers policiers de la BAC qui rentrent dans la fosse ensanglantés entendent un petit gémissement et voient deux petites jambes bouger sous un corps. Un policier tire l'enfant, le prend dans ses bras, enfouit sa tête dans son blouson pour lui masquer l'horreur. Le petit garçon répète « Vous êtes gentil, monsieur, vous êtes gentil, monsieur ». L'enfant retrouvera son père à l'hôpital. Sa mère et sa grand-mère sont décédées. À la barre, Michel, le grand-père éploré, se demande « Comment peut-on imaginer ce qu'a vécu mon petit-fils ce soir-là ? Il a 11 ans aujourd'hui, il fait du karaté, il aime Dragon Ball, ce qui ne surprendra personne. Il voit un pédopsychiatre chaque semaine et pour encore longtemps ».
Au palais de justice pour RTL, Anne Le Hénaff. 10 mois de prison avec sursis requis contre Karim Benzema dans l'affaire de la sextape, ainsi que 75 000 euros d'amende. La star du Real Madrid est accusée de complicité de tentative de chantage sur son ancien coéquipier Mathieu Valbuena. Le tribunal correctionnel doit rendre son jugement aujourd'hui.
On l'évoquait il y a quelques secondes. L'actualité, c'est aussi cette question. Face à la concurrence de SpaceX, Ariane est-elle toujours compétitive ?
La fusée européenne doit s'envoler la nuit prochaine pour mettre 2 satellites de communication en orbite. Des lancements qui se font plus rares face à des Américains qui cassent les prix, Sophie Jousselin.
Oui, depuis le début de l'année, SpaceX effectue plus de 2 lancements par mois. La moitié, c'est vrai, pour mettre en orbite ses propres satellites, ceux de la constellation Starlink. Mais sur la même période, Arianespace n'a procédé qu'à 10 lancements et seulement un avec une Ariane 5, les 9 autres avec des fusées Soyuz et Vega. Il faut dire que l'entreprise d'Elon Musk, qui réutilise partiellement ses lanceurs, vend ses tirs commerciaux 30 à 40% moins cher que ceux d'Ariane. Elle surfacture les vols institutionnels américains, ceux de l'armée, de la NASA, offrant ainsi de gros rabais à ses clients privés. Pour tenter de contrer SpaceX, l'Europe mise désormais sur Ariane 6. Avec la crise sanitaire, sa construction a pris 2 ans de retard et les premiers lancements sont prévus maintenant l'année prochaine. Mais même si Ariane 6 coûte moins cher à produire qu'Ariane 5, les tarifs de ses lancements devraient malgré tout rester plus élevés que ceux de son concurrent américain.
Les explications signées Sophie Jousselin pour alors, RTL.
Réaction, commentaire et même perspective à 8h20 avec notre invité Stéphane Israël, qui est le président d'Arianespace.
En football, la Ligue Europe avec la victoire pour 2 clubs français hier soir. Monaco s'est imposé contre Eindhoven 2-1 et l'Olympique Lyonnais de son côté a battu le Sparta Prague 4-3. L'OM a fait match nul 0-0 face à la Lazio de Rome. 3e match nul en 3 matchs pour les Marseillais qui font du surplace 3e de leur groupe. Enfin, en Ligue Europe Conférence. Notez aussi la victoire de Rennes 2-1 sur la pelouse de Murat en Slovénie. Ce soir, rendez-vous dans RTL Foot à partir de 20h pour l'ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Saint-Etienne qui reçoit Angers.
Et on termine, Alexandre, en musique avec le retour de la chanteuse belge Angèle.
Elle a dévoilé hier après-midi le tout premier extrait de son deuxième album. S'appelle Bruxelles, je t'aime, oui. une ode, un amour pour la capitale belge. L'album est attendu pour le 10 décembre prochain. Son premier album, Brawl, vient de dépasser en France le million d'exemplaires vendus. C'est un chiffre fou.
Donc il est disque d'or déjà, même peut-être disque de platine, j'ai un petit doute là-dessus. Allez, les courses, elles ont lieu en nocturne et à Vincennes aujourd'hui, Alexandre.
Et voici les pronostics signés Dominique Cordier. Il vous conseille de miser sur le 10, le 9, le 2, le 12... le 4, le 7 et le 14. La dernière minute, c'est le numéro 2, Payet.
Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan pour ce journal de 7h. Il est 7h10, on retrouve tout de suite Olivier Bost pour La Politique. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Une grève à la SNCF peut aussi cacher un changement d'atmosphère pour la présidentielle.
Oui, tiens, une grève surprise à la SNCF. Bah, ça ressemble à un retour à la normale. Et ce n'est pas anodin sur le climat social. Une grève à la SNCF, c'est le signal qu'il ne faut surtout pas négliger. C'est le retour des revendications, c'est le retour du monde d'avant. Une grève à la SNCF peut aussi cacher effectivement un changement d'atmosphère pour la présidentielle.
Avec la question du pouvoir d'achat ?
Alors pas seulement. Il y a quelques mois encore, après la sortie de la crise sanitaire, personne dans les ministères comme à l'Élysée ou à Matignon n'imaginait cette question sociale bien plus large revenir aussi puissamment. Comme personne n'imaginait que l'emploi irait mieux et que la relance mondiale serait aussi importante. Et c'est justement lié. Les grèves, les revendications collectives, ça n'est jamais en période aiguë quand tout va mal. Les grèves, les revendications, en période de crise aiguë, quand tout va mal. Les grèves, les revendications, c'est justement quand ça commence à aller mieux. Pour faire simple, on demande quelque chose quand on a le sentiment qu'il y a quelque chose à obtenir. Les bons chiffres économiques, dont s'est vanté assez vite le gouvernement, ont installé cette idée que ça allait mieux.
Alors du coup, ça amène une question. Les candidats et les non-candidats, ou les candidats putatifs d'ailleurs, ont-ils commencé à s'adapter à cette nouvelle ambiance ?
Alors, dans son grand pragmatisme, la majorité répond pour l'instant, l'augmentation des salaires, ça sera par secteur, et en particulier dans les secteurs tendus, ceux qui ne trouvent plus d'employés. L'augmentation des salaires généralisés, ça n'est pas très macroniste. Alors qu'à gauche, c'est le relèvement du SMIC, et ou même le retour d'une vieille lune, la baisse du temps de travail. À droite, l'intéressement refait surface. Cette idée n'est pas non plus tout à fait récente, nous en parlons depuis 1967. Chacun se dit qu'il y a quelque chose à faire. Les 100 euros d'indemnité inflation annoncés hier soir par Jean Castex ne suffiront pas à éteindre ce sentiment. Chez 3 Français sur 4 qu'ils ont perdu en pouvoir d'achat ces derniers temps, selon notre sondage du jour BVA Orange RTL. Au contraire même, cela va alimenter ce sentiment.
Mais ces sujets, salaire, travail, inflation, sont toujours présents dans les campagnes présidentielles.
Oui, mais ils ne sont pas forcément déterminants. Cette période post-super crise sanitaire est pour l'instant indécelable. Est-elle portée vers des avancées individuelles, collectives ou au contraire empreinte de régression ? Voulons-nous mieux vivre tout de suite ou vivre comme avant ? Allons-nous nous projeter en 2030 ou dans les années 50 ? Cette grève à la SNCF ce week-end dans le Sud-Ouest n'est pas seulement donc un retour à la normale, elle peut cacher un changement d'atmosphère dans la présidentielle.
Merci beaucoup Olivier Bost. À 7h40, Benjamin Sportouche reçoit aujourd'hui Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, l'occasion de parler avec lui de la campagne de lutte contre le Covid, mais aussi de l'arrivée de la grippe hivernale.
Yves Calvi, RTL Matin.
Il est 7h13. RTL s'intéresse ce matin aux notes de nos lycéens. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
La question des notes est devenue centrale au lycée, puisque désormais le contrôle continu est pris en compte dès la classe de première, je dis bien de première, et il pèse 40% en fait du nouveau bac. L'éducation nationale demande à chaque lycée d'élaborer un projet d'évaluation. Alors Marie, de quoi s'agit-il exactement ?
Chaque proviseur est chargé de faire travailler les enseignants ensemble pour élaborer ce projet d'évaluation, c'est-à-dire définir un cadre qui doit garantir aux élèves une égalité de traitement dans la notation du contrôle continu. À Carrières-sur-Seine, dans les Yvelines, au lycée Les Pierres Vives, Virginie Abatz, la proviseure, vient d'organiser une première journée, demi-journée de concertation.
Ce projet d'évaluation, c'est le projet d'évaluation à nous. C'est les principes directeurs que nous allons retenir avec l'équipe éducative au grand complet.
Elle énumère les pistes à creuser.
Les critères d'une moyenne représentative, alors ça peut être le nombre de devoirs, le devoir à faire au sein de la classe, les devoirs à faire hors la classe, devoirs communs, devoirs surveillés, vous voyez, on peut en faire plein de combinaisons. Hein. Vous avez l'habitude en plus.
Et ce qu'elle demande en fait, c'est que ce soit formalisé dans un document écrit, mais les réticences sont fortes, les enseignants ne veulent pas d'un carcan qui les priverait de leur liberté pédagogique. Discussion entre les profs de sciences économiques et sociales.
Nombre de devoirs, 3 et plus.
Basta. Bon, on est d'accord à partir de 3, voilà. Parce que ça prend du temps en plus de faire le contrôle. Ça prend 2 heures sur la progression du programme.
Cette concertation, ça permet de comparer les pratiques des uns et des autres.
Je vais faire des exposés. Et ça, vous les notez ou vous les notez pas ?
Ça dépend.
En bonus.
Pour valoriser l'investissement.
Donc on est toujours dans le dosage sur le fil.
Comment vous la définiriez, la note juste ?
C'est entre l'exigence et la bienveillance. C'est un peu un travail d'équilibriste.
Ah, quel que soit le montant de la note, une note juste, c'est une note qui est bien comprise. C'est pas un outil de sanction, c'est un outil de progression.
Une fois finalisé, le projet d'évaluation sera transmis aux élèves et aux parents.
Mais là, Marie, on ne parle que de l'harmonisation des pratiques à l'intérieur d'un même lycée. Comment fait-on pour que ce soit équitable, en fait, d'un lycée à l'autre ?
Eh bien, quand arrivera le moment du bac, les notes de chaque lycée seront passées au tamis d'une commission d'harmonisation académique. La moyenne annuelle des élèves d'un même lycée dans tel enseignement est comparée à la moyenne annuelle des résultats obtenus par l'ensemble des élèves de l'académie dans ce même enseignement. Si besoin, l'harmonisation se fait à la hausse ou à la baisse s'il y a trop d'écart.
Un travail d'équilibriste, nous disait un professeur il y a quelques instants, c'est cette jolie formule que je vais retenir. C'était donc notre brigade RTL. Merci Marie Guerrier pour cette analyse. Dans un instant, nous allons revenir sur les annonces de Jean Castex, notamment l'indemnité de 100 euros pour faire face à l'augmentation du prix du carburant. Les artisans sont-ils satisfaits ? Nous leur poserons la question. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
Hier soir, le Premier ministre Jean Castex a donc annoncé une indemnité de 100 euros pour faire face à l'augmentation du prix du carburant. Cette aide sera versée à toutes les personnes gagnant moins de 2 000 euros net par mois. Alors, est-ce suffisant ? Eh bien, pour en parler ce matin, nous sommes avec deux artisans. Olivier Attali, bonjour.
Oui, bonjour.
Et je salue aussi Jean-Christophe Repon. Olivier Attali, vous êtes associé au sein de la société Joseph Bourgeois dans le Val d'Oise. On vous a suivi lors d'un reportage en début de semaine. Vous êtes électricien chauffagiste avec 3 salariés, ça fait donc 3 camionnettes, 2500 euros de carburant par mois. Est-ce que vous êtes concerné par cette indemnité de 100 euros ?
Ben non.
Non ? Ça passe à côté ?
Exactement, voilà. Tout simplement, s'il y avait une baisse des taxes, ça aurait été pour tout le monde concerné. Mais là, avec le chèque énergie, voilà, on n'est pas concerné.
Alors, je n'ai pas oublié ce que vous disiez dans notre reportage de début de semaine. On est prêt à remettre notre gilet jaune. Vous allez le laisser au placard ou vous le ressortez, effectivement ?
Je suis en train d'enlever la poussière dessus.
Vraiment ?
Oui.
Déception ?
Tout à fait. Mais bon, je ne suis pas surpris. Hein. Déçu, mais pas surpris.
Pourquoi déçu, mais pas surpris ?
Parce que c'est toujours pareil. Hein. Donc, les annonces ne vont pas au profit pour tout le monde. Une certaine partie de la population.
Et excusez-moi, votre situation est la même pour tous les membres de la société que nous avions suivi, puisque vous êtes 3 à travailler ?
Oui, tout à fait.
Donc personne chez vous ne profitera de cette prime de 100 euros, on est bien d'accord ?
Exactement.
Merci Monsieur Attali, vous restez avec nous. Jean-Christophe Repon, je vous salue à nouveau, vous êtes président de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment. 100 euros net, est-ce vraiment suffisant face à l'envolée du prix du carburant ?
Par rapport à l'envolée du prix du carburant, bien sûr que ça peut paraître insuffisant. Nous, ce que nous soulignons, c'est quand même la simplicité de l'action. On retrouve un peu l'esprit du quoi qu'il en coûte et le fait que ça se fera automatiquement. Donc pour nous, c'est quand même une satisfaction d'aller toucher notamment pour nos salariés et nos apprentis une partie de cette aide. Après, bien évidemment que nous, depuis dès février, on a interpellé Bruno Le Maire sur la hausse des matériaux, qui sont bien au-delà de la hausse du prix de l'essence. Et ce qui inquiète le plus actuellement nos artisans, c'est bien cela, puisque nous sommes sur des hausses de 30 à 40 à 80% de la hausse des matériaux. Et ce qui veut dire qu'à terme, on va aussi s'éloigner du pouvoir d'achat.
Aluminium, bois, tout ce dont on a besoin pour la fabrication. Mais excusez-moi, vous avez entendu Olivier Attali, ils sont trois associés au sein d'une même entreprise. 2 500 € de carburant par mois, voilà, pour aller chez leurs clients, pour des Français qui ont besoin, qu'on s'occupe d'eux dans leur maison. L'entendre à ce point, j'ai envie de vous dire, déçu, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ?
Ben, une vigilance, c'est ce qu'on a rappelé au gouvernement depuis le début. On sait très bien que le mouvement des Gilets jaunes est parti de cette problématique de hausse de matériaux, de hausse du prix de l'essence. Et on a une tension, comme il l'a exprimé, qui est grandissante. Après, nous, dans la partie bâtiment, la hausse de l'essence est une partie de nos charges.
Bien sûr.
Et bien évidemment que la hausse des matériaux qui nous éloigne de nos clients, parce que c'est le devis, la facture qui va être plus chère, nous inquiète bien plus que la hausse de l'essence.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous pouvez avoir surtout des ruptures d'approvisionnement?
Ça y est, on a déjà des ruptures d'approvisionnement. Alors,
sur quel produit?
Notamment sur le bois, l'ossature bois et la construction bois, également sur le verre, et puis on a des délais extrêmement longs sur l'approvisionnement. Donc ce qui veut dire qu'on perd, nous, de la marge, on crée un inconfort dans le chantier et on risque d'avoir une activité qui est plutôt très favorable actuellement, des clients qui n'iront pas à la rénovation et au chantier, et ça nous inquiète grandement.
On manque même des garde-meubles Billy, vous savez, chez Ikea en ce moment. Ça traduit la situation ?
Je suis moins ému par la problématique d'Ikea, mais...
Oui, ça j'ai bien compris. Ikea est touché, vous comprenez ce que je veux dire, et qu'on ne peut pas installer son étagère...
C'est exactement ça, et nous on est vraiment actuellement à regarder nos marges, à regarder comment l'activité qui est florissante va pouvoir nous permettre dans l'année à venir à rembourser les PGE, à avoir l'activité et à créer de l'emploi et de l'apprentissage. Donc on est vraiment très tendu, on sait que le gouvernement nous a écouté et essaye de nous aider dans cette problématique. On l'avait évalué comme conjoncturel. J'espère qu'elle ne sera pas structurelle, parce que ça nous inquiète beaucoup. Et l'effet gilet jaune et le risque d'avoir de nos artisans sur les ronds-points nous remplit pas d'espoir. Donc il faut trouver des solutions, quoi.
La grande déception, vous l'avez entendu, d'Olivier Attali, qui est électricien chauffagiste dans le Val-d'Oise, et la crainte pour les matériaux très précise de Jean-Christophe Repon, président de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment. Merci à tous les deux d'avoir pris la parole ce matin sur RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour Anthony Martin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Nous attendons notre pépite musicale du vendredi.
Alors on va commencer par un duo.
Puisque vous partez en voyage, vous m'avez promis, mon cher, tous les matins ou davantage.
On frôle la perfection, n'est-ce pas? Il y a 21 ans, François Hardy et Jacques Dutronc remettaient au goût du jour Puisque vous partez en voyage. Cette chanson, écrite à l'origine en 1935 par Mireille et Jean Nohain, en ce 22 octobre, jour du centenaire de la naissance de Georges Brassens, je vous propose d'écouter un document, sa version de cette chanson.
Non.
Si, Georges Brassens l'a enregistré en 1980 dans le cadre d'un album dans lequel il reprenait les chansons marquantes de son enfance. Un projet à l'époque au profit de l'association Personnage de son ami Lino Ventura. Oui. C'est d'ailleurs l'acteur qui avait sollicité Brassens. Georges Brassens est donc entré en studio et c'est intéressant parce qu'on l'entend comme rarement, assez loin de son style, un peu crooner, en tout cas il essaie, accompagné par un piano. C'est notre pépite du jour, puisque vous partez en voyage, par Georges Brassens.
Promettez-moi d'être bien sage, de penser à moi tous les jours, et revenez dans notre cage où je guette votre retour. Puisque vous partez en voyage, puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage, je veux sourire avec courage. Voyez, j'ai posé vos bagages, marche avant côté du couloir, pour les grands signaux d'usage. J'ai préparé mon grand mouchoir.
Voilà, c'est bien Georges Brassens. Chante les chansons de sa jeunesse, c'est le titre du disque dans lequel on trouve cette rareté, cette reprise de Puisque vous partez en voyage, enregistrée un an avant sa mort. C'est donc aujourd'hui les 100 ans de sa naissance et vendredi prochain, on célébrera les 40 ans de la disparition de Georges Brassens.
Que s'il grille encore une fois, moi je viens, j'ai mon amour pour seul bagage et tout le reste je m'en fous. Puisque vous partez en voyage, mon chéri, je pars avec vous.
Merci Anthony, on se dit à lundi et d'ici là, à tout moment sur l'appli RTL. Louis Bodin, dans quelques instants, notre météo.
Bonjour.
Vous avez l'air d'être de bonne humeur.
Oui, vous allez voir.
La météo l'est aussi.
Et bien surtout.
Voilà, une première coloration. A tout de suite, c'est l'effet Brassens. On retrouve nos grosses têtes, comme chaque jour, de 15h30 à 18h. Et aujourd'hui, c'est le grand retour de Mademoiselle Yann Folie.
Vous êtes contente de revoir Yann Folie
Ah ouais. Surtout si elle chante pas.
Ouais, c'est Assurance Tour X.
Alors là, tu mens très très mal, Christine.
Ouais, chante
parce
bien.
Que je sais que tu adores quand je chante.
Tu m'avais épaté, oui. Tu avais chanté Edith Piaf,
oui.
Un jour à un dîner et j'étais restée...
Non. Rien de rien.
Oh putain, Christophe.
Non, je ne regrette rien.
Non, mais moi, j'étais pas prévu à l'émission. Je suis arrivé au pied levé. On m'a pas prévenu. On m'a pas dit.
J'ai mal. Tout ça m'est bien égal.
Et tu penses.
Ma chanson préférée, c'est « Je m'en fous pas mal, il peut m'arriver n'importe quoi, je m'en fous pas mal ».
Ça se chante, ça.
Ouais. C'est du slam.
Il a pris un coup dans l'aile, le Piaf.
Remettez-le dans sa cage.
Allez, tout le monde vous donne rendez-vous cet après-midi à partir de 15h30. Rendez-vous avec nos grosses têtes et Laurent Ruquier, ainsi que tous ses invités. Laurent Ruquier, Louis Bodin. Oui, c'est vendredi matin sans doute. Alors, cher Louis, comment se trouve notre week-end, s'il vous plaît?
Eh bien, ça se présente bien. Hein. De nouveau, ça devrait s'améliorer. Alors, aujourd'hui, c'est la journée intermédiaire. Hein. Après la tempête d'hier, ben, ça s'améliore quand même. Fini les vents forts, sauf près de la Méditerranée, où il restera un peu de mistral et de tramontane. Côté ciel, ben là aussi, ça va aller de mieux en mieux, même s'il y aura encore des passages nuageux. Les éclaircies par moments seront très belles, faudra en profiter. Et les averses, beaucoup plus rares. Il en restera un tout petit peu, c'est le cas ce matin, entre la Normandie et la Picardie, ou encore entre les Pyrénées et le Massif central. Et c'est tout, donc ailleurs, plutôt une amélioration. En revanche, côté température, là c'est plus frais. Hein. Ce matin, on a des gelées du côté de Châteaudun, Charleville-Mézières, à Alençon, à Beauvais, parfois accompagné de brouillard. Hein. Ça sera un petit peu l'hiver, matinée assez froide. Et cet après-midi, bah, ça restera frais. 11 à 14 degrés seulement dans la moitié nord. Bah oui, ça reste un peu en dessous des moyennes de saison. 14 à 18 dans le sud et 21 à 23 près de la Méditerranée. Mais ça augure d'un beau week-end.
Précis et ponctuel, c'est signé Louis Bodin. Vous écoutez RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce vendredi 22 octobre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Il n'y a pas que le Covid dans la vie. Aujourd'hui, c'est la campagne de vaccination contre la grippe qui débute avec 4 jours d'avance. Normalement, c'était mardi prochain. Cela concerne pour l'instant les personnes les plus fragiles, les plus de 65 ans, les femmes enceintes et les malades chroniques. Objectif, 75% de vaccinés dans cette population à risque. Et si l'on écoute l'épidémiologiste Anne Monnier, ce n'est pas gagné.
On en est très loin. On était bon an, mal an, plutôt à 50%. Il y a eu un petit effet crainte de la Covid qui a fait que les gens se sont un peu plus vaccinés l'année dernière. Donc on est monté à 55%. Il y a un vrai effort à faire. Moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas hiérarchiser les virus et se dire on fait tout sur la Covid et rien, plus rien sur la grippe. Il faut considérer la grippe comme un vrai risque pour cette année, pour les personnes à risque, et elles doivent se faire vacciner contre la grippe.
Anne Monnier au micro RTL de d'Odile Pouget.
Après le bouclier énergie, l'indemnité inflation, Jean Castex a annoncé hier donc les mesures du gouvernement pour le pouvoir d'achat.
Pas de baisse des taxes sur l'essence, pas de chèque carburant, mais une prime de 100 euros pour tous les Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. Parce qu'il n'y a pas que l'essence qui augmente, dit le Premier ministre. 38 millions de personnes vont en bénéficier, dont Frédéric, elle est aide à domicile.
Pourquoi pas, mais je me demande justement comment ça va se passer pour moi, parce que je suis en service mandataire, donc je ne comprends pas comment je vais avoir ces 100 euros. Quoi. J'aurais préféré que ce soit les taxes qui diminuent, quoi, en fait. Ça, c'était plus... La répartition, pour moi, c'était plus juste pour tout le monde. Tout le monde en aurait profité.
Frédéric avec Patrice Gabart. Alors la baisse de la piste de la baisse des taxes, elle a été envisagée mais finalement abandonnée. Explication de Jean Castex.
Quand on a utilisé la baisse des taxes, de l'avis général, ça n'a pas marché. D'abord parce que ça ne se voit pas. On ne sait pas vraiment si c'est complètement répercuté pour le consommateur, parce qu'il y a des intermédiaires, il y a des fournisseurs, etc. Et puis, ben, si le prix continue à augmenter, on ne le voit plus.
Le Premier ministre, hier soir sur TF1, Jean Castex, qui annonce aussi un gel des prix du gaz pour toute l'année 2022 et pas seulement jusqu'en avril comme prévu. Les tarifs ont augmenté de plus de 50% depuis le début de l'année. 3 Français sur 4 ont le sentiment de perdre du pouvoir d'achat. C'est ce qui ressort de notre baromètre BVA pour Orange et RTL. Un sentiment partagé par toutes les catégories de population, y compris les plus favorisées. La cote de popularité d'Emmanuel Macron se dégrade. 42% de bonnes opinions en baisse de 4 points. Et puis, ce baromètre confirme également un certain appétit pour la candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle. 27% des Français la souhaitent, dont 58% des sympathisants du RN, mais aussi 36% des sympathisants LR. Adélaïde Zulfi-Karpassic, directrice de BVA Opinion.
C'est un chiffre qui est très fort et qui montre bien qu'il y a là un espace politique quand même sur une partie de la droite traditionnelle assez conservatrice. Il y a une appétence pour la candidature d'Éric Zemmour.
Éric Zemmour qui sera par ailleurs l'invité du grand jury RTL, le Figaro LCI, dimanche avec Benjamin Sportouche.
Bon, bah c'est le début des vacances de la Toussaint ce soir.
Hein. Absolument, et vous serez nombreux à prendre le large. Hein. Les réservations sont en hausse, même par rapport à 2019. Ah, si vous prenez le volant, sachez que Bison Futé a hissé le drapeau orange ce vendredi en Île-de-France. Et sur les rails, eh bien attention, il y a grève à la SNCF, Arnaud Touche.
Oui, même si ce vendredi sera un peu moins difficile que ce week-end. Comptez un train annulé sur 10 pour aujourd'hui, un train sur 3 samedi et dimanche. Cet appel à la grève court d'ailleurs de vendredi midi à lundi midi et concerne les TGV Inouï ainsi que les trains Ouigo. Chaque client concerné est normalement contacté par la SNCF afin de l'informer sur la circulation de son train. Il peut soit échanger son billet pour une autre date sans frais supplémentaires, soit se faire rembourser. On rappelle que cette grève ne concerne que l'axe Atlantique et les trains qui vont vers la Bretagne, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire, la Nouvelle-Aquitaine ou encore l'Occitanie.
On vient de l'apprendre, Renault prévoit une perte de production de 500 000 véhicules cette année, conséquence de la pandémie et de la pénurie de semi-conducteurs. 10 mois de prison avec sursis requis contre Karim Benzema au procès de la sextape de Mathieu Valbuena. L'attaquant des Bleus est accusé de complicité de tentative de chantage. Le jugement est attendu dans la journée.
Aux États-Unis, le tournage d'un western avec Alec Baldwin a viré au drame.
Oui, l'acteur a tiré avec un pistolet, un accessoire normalement chargé à blanc, mais qui contenait visiblement des balles réelles. Il a tué une femme, Lionel Gendron.
Oui. Quand l'adjoint du shérif du comté de Santa Fe reçoit un appel en début d'après-midi, son interlocuteur lui signale des coups de feu à balles réelles sur le tournage d'un film. Il ne sait pas encore que l'auteur des tirs est une star internationale. Alec Baldwin vient de tuer une femme de 42 ans, directrice de la photographie, décédée lors de son transport à l'hôpital. Un homme est lui dans un état critique. Selon la police, l'arme devait contenir des balles à blanc. Mais comment des balles réelles ont-elles été chargées, négligence ou acte intentionnel? Selon la production, il s'agissait d'un revolver. Mais pourquoi le héros de La Poursuite d'Octobre Rouge ou de Mission Impossible a-t-il tiré en direction de ces deux personnes? C'est à ces questions de ce mauvais scénario que les enquêteurs vont devoir répondre.
Lionel Gendron, correspondant d'RTL aux États-Unis. Au Royaume-Uni, petite alerte pour Elisabeth II. La reine d'Angleterre, 95 ans, a passé une nuit à l'hôpital pour subir quelques examens. Après avoir été mise au repos par ses médecins, elle est rentrée au palais de Buckingham dès hier après-midi. Elle garde bon moral, selon le communiqué officiel. On passe au foot. Bonne soirée globalement pour les Français engagés en Ligue Europe. Lyon a réussi à renverser un match bien mal parti pour s'imposer 4-3 sur la pelouse du Sparta Prague. Monaco l'a remporté 2-1 chez les Néerlandais d'Eindhoven. En revanche, ça patine pour l'OM qui a dû se contenter d'un nul 0-0 sur la pelouse de la Lazio de Rome. Mais en Ligue Europa Conférence, Rennes s'est imposé 2-1 à Mura en Slovénie. À suivre ce soir, Saint-Étienne-Angers en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. RTL Foot dès 20h avec Eric Silvestro, Xavier Domergue et Giovanni Castaldi.
Le Tout Info nous était proposé par Isabelle Choquet. On vous retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Ce sera la face cachée des romans Arlequin. Ah, une oui. Success story à 50 millions de lectrices tout de même.
50 millions de lectrices. J'ai hâte. Dans un instant, l'angle éco, Jean Castex joue au Père Noël sur la hausse du prix du carburant, mais est-ce vraiment son rôle?
Quand tu descendras du ciel.
A tout de suite, François Langlet.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h38, l'Angleco avec vous, François Langlois.
Bonjour à tous.
Jean Castex a donc annoncé hier soir le fameux dispositif qu'on attendait, censé compenser la hausse des prix du carburant.
Oui, il s'agit en effet d'un chèque de 100 euros qui sera versé aux 38 millions de Français gagnant moins de 2000 euros net par mois. Dans un même foyer, plusieurs personnes pourront le toucher, retraités comme salariés, fonctionnaires comme indépendants. Pour les salariés du privé, ça sera versé entre Noël et Nouvel An. Pour les fonctionnaires, en janvier. Et pour les retraités, en février. Mmh. Vous savez, dans les familles de naguère, les enfants recevaient des étrennes.
Oui, c'est ça.
De la part de leurs grands-parents. C'était au 1er janvier. Eh bien, ce sont les étrennes du Premier ministre.
Dites-moi, ça n'a rien à voir avec les carburants, du coup ?
Non, c'est toute l'ingéniosité de la solution retenue. Le Premier ministre l'a appelée indemnité inflation, en la justifiant par la hausse des prix du carburant, bien sûr, et d'abord, mais aussi de l'alimentation, des matières premières. En élargissant ainsi la finalité du chèque, le gouvernement tente d'éviter le reproche de subventionner la consommation d'essence, alors qu'il avait défendu mordicus l'inverse, il y a 3 ans, avec la taxe carbone. Ça lui permet de se contredire sous les dehors de la cohérence. De plus, contrairement à une baisse des taxes sur les carburants qui ne pouvait être que pérenne, on voit mal un gouvernement réaugmenter les impôts sur l'essence, surtout après les gilets jaunes, là c'est une aide ponctuelle, ce qui permet de limiter son coût quand même à près de 4 milliards d'euros.
Bah dites donc, c'est pas si mal quand même ce système.
C'est malin. c'est utile politiquement à la veille d'une élection importante. Les mauvais esprits, parmi lesquels nous ne nous comptons pas, dirait qu'on achète le vote des Français avec l'argent public, c'est-à-dire avec peu ou prou de la dette. Hein.
Mais
sur le fond, philosophiquement, si je puis dire, c'est un nouveau pas dans l'étatisation à outrance que connaît la France, en particulier depuis qu'Emmanuel Macron est président.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Mais c'est pas à l'État d'indemniser quiconque face à la hausse des prix. C'est le rôle des employeurs d'ajuster les salaires à l'inflation, après des négociations sociales avec les syndicats. L'État, il doit se borner à pratiquer une politique économique qui n'est pas inflationniste. Il y a déjà de quoi faire. Mm-hmm. Fait révélateur, le Premier ministre s'est engagé hier soir sur TF1 à ce que le pouvoir d'achat des Français augmente en 2021. Est-ce là encore, le rôle de l'exécutif de garantir une hausse du pouvoir d'achat au moyen de nouveaux transferts financiers financés à crédit ? Le pouvoir d'achat, ça devrait être la résultante du travail et de la productivité, et éventuellement des baisses d'impôts, si toutefois elles sont financées par des économies dans la dépense.
Mais c'est nous les Français qui nous tournons vers l'État à tout propos.
Hein. C'est tout à fait juste. Et c'est de pire en pire. Indemnité inflation, chèque énergie, bonus véhicule propre, chèque réparation vélo, passe culture. La litanie des aides jusqu'au plus saugrenu est interminable, qui s'ajoute au montant déjà faramineux de la redistribution. Nous entretenons avec l'État une relation pathologique en lui reprochant ses impôts tout en lui demandant sans cesse de nouvelles aides. À quand un chèque mauvais temps pour compenser le désagrément de la pluie d'automne ou l'indemnité rhume pour acheter des mouchoirs en papier.
Bon, bah, les choses sont claires. Hein. Ça n'est pas à l'État d'indemniser quiconque face à la hausse des prix. C'est le rôle des employeurs d'ajuster les salaires à l'inflation. Vous avez-vous dit ? Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de bon sens dans tout cela. Merci infiniment François Langlais. Rendez-vous lundi et puis d'ici là sur le site RTL.fr. Il est 7h42. Benjamin Sportouche, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous.
Votre invité ce matin ?
Le monsieur vaccination du gouvernement, le professeur Alain Fischer. Alors le taux d'incidence du Covid est reparti à la hausse dans certains départements. Est-ce le début d'une cinquième vague ?
Rendez-vous avec Alain Fischer dans un tout petit instant sur RTL.
RTL Matin avec Yves Calvi.
RTL, il est 7h44. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Benjamin Sportouche, vous recevez donc ce matin Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale.
Bonjour Alain Fischer.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Alors je le disais, les taux d'incidence, hein, je rappelle, c'est le nombre de cas détectés pour 100 000 habitants. Le principal indicateur dans cette épidémie, eh bien, ce taux remonte dans certains départements. Il est même au-dessus de 50 parfois, le seuil d'alerte. Alors, est-ce que la cinquième vague est déjà là, Alain Fischer ?
Alors, il faut être à la fois raisonnable, prudent et analyser ces chiffres donc, avec circonspection. Il y a une augmentation, mais qui est assez modeste. Hein, 10% une dizaine de jours au niveau français. On est dans un contexte de début de la phase hivernale, pas encore tout à fait l'hiver, mais on sait que cela est favorable au virus. Donc il faut tenir compte de ce fait. Néanmoins, les analyses qui sont faites par les collègues modélisateurs, et qu'on peut avoir des petites vagues, mais logiquement, si les gens continuent à respecter raisonnablement les gestes barrières, c'est l'occasion de le dire, on ne doit pas avoir de vagues importantes, pas de poussée d'hospitalisation. Mais il faut surveiller ça de très près, bien sûr.
D'accord, donc pas de poussée d'hospitalisation. Est-ce que justement, vous dites il faut garder le masque puisque vous dites que les gestes barrières sont en train d'un peu de céder le pas.
Oui, on peut comprendre qu'il y a une certaine lassitude,
oui.
Enfin relative. Hein, je trouve que les Français, globalement, moi, je les estime assez raisonnables sur cette affaire.
Oui.
Et il faut poursuivre pour l'instant, en tous les cas, en milieu, en intérieur, quand on se retrouve avec plusieurs personnes dans une salle pas très aérée et on est relativement nombreux, oui, il faut porter le masque parce que, on vient d'en parler, le virus circule encore. Il y a des personnes qui ne sont pas vaccinées et même si on est vacciné, c'est très bien, mais ce n'est pas une protection à 100%.
Alors justement, professeur Fischer, ceux qui refusent aujourd'hui encore de se faire vacciner, est-ce qu'ils mettent en danger le reste des Français? Est-ce que c'est justement la propagation du virus peut venir d'eux?
Alors, je ne vais pas culpabiliser les gens.
Je ne vais pas culpabiliser, mais la question se pose quand même. Oui, 7 millions de personnes qui n'ont pas eu de première injection.
C'est ça, on est à peu près 51, on va dire les choses positivement, 51 millions sur 58 qui sont vaccinés, 7 millions qui ne le sont pas encore. Je ne veux pas culpabiliser. D'abord parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas vaccinées, parce que ce sont des personnes très âgées, isolées, qui sont juste en difficulté, à la fois, je dirais, psychologique et physique, et vers lesquelles il faut aller. Il en est de même, la somme de personnes atteintes de maladies chroniques, personnes en situation précaire. Donc ça compte et ces personnes-là sont aujourd'hui un objectif majeur de tentative de vaccination en allant au plus près de ces personnes, ce qui est compliqué, qui prend du temps et n'est pas d'une efficacité équivalente à ce qui a pu être fait avec la population générale. Reste les 4 millions, 4,5, je ne sais pas, qui sont plus jeunes et qu'il faut continuer à
convaincre. Est-ce qu'ils peuvent empêcher l'immunité, cette fameuse immunité?
En tous les cas, c'est sûr que toute personne non vaccinée a plus de risques de contracter la maladie, de porter le virus et de le diffuser à des personnes fragiles en particulier. Donc c'est sûr qu'on aimerait bien qu'elles se vaccinent et qu'elles respectent par ailleurs, évidemment, les gestes barrières.
Alors justement, vous parliez des personnes les plus fragiles. A commencé ce matin, commence aujourd'hui la vaccination contre la grippe hivernale, avancée de 4 jours, justement pour inciter les personnes les plus fragiles dans un premier temps, eh bien de cumuler le vaccin contre la grippe saisonnière et la dose de rappel, la fameuse troisième dose de rappel. Il y a un débat qui est en train de monter, professeur Fischer, c'est de tout simplement lier le pass sanitaire à cette troisième dose. C'est une piste envisagée par le gouvernement. Est-ce que vous êtes favorable à cette option? Parce que c'est vrai qu'on voit là aussi qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ne veulent pas faire pour l'instant cette troisième dose, qui sont assez réticentes.
C'est un point de discussion. Je pense que la base, et ce qui est important de rappeler aujourd'hui, c'est que pour les personnes âgées et les personnes fragiles, cette troisième dose est tout à fait utile. Et plutôt que de l'appeler une troisième dose, il est important de faire de la terminologie, de l'appeler un rappel, ce qui n'a pas la même signification. Et même d'ailleurs en termes de perception par la population. Un rappel, c'est un sens sur le plan immunologique. On sait que c'est une façon d'induire une réponse immune et une protection très forte. Et les données vont dans ce sens. Donc pour les personnes fragiles, pour une raison ou une autre, le temps passant, petit à petit, la protection s'atténue. Donc il est absolument raisonnable, c'est tout à fait logique que de se vacciner et d'en profiter puisqu'il y a la grippe qui vient potentiellement, et la vaccination antigrippale, de faire les deux en même temps, ça simplifie les choses.
Mais est-ce que lier les deux, est-ce que passe sanitaire
mais ça a du sens.
Et dose de rappel, est-ce que ça serait nécessaire?
Je ne sais pas. C'est pas pour moi l'actualité du jour, vous l'avez indiqué d'emblée, c'est le fait qu'on commence la campagne de vaccination contre la grippe. Très important, il n'y a pas eu de grippe l'année dernière. L'immunité collective de la population contre la grippe est plus faible, donc il y a un risque d'épidémie sévère. La grippe peut tuer aussi, il y a eu des années où elle a tué jusqu'à 10 000 personnes. Donc il faut se protéger contre la grippe et avoir une double épidémie, ce serait plus que l'addition des deux.
Et est-ce qu'attraper la grippe saisonnière, ça peut vous faire plus facilement attraper le Covid ou pas?
Pas forcément, mais en tous les cas, ça peut faire aussi qu'il y ait des personnes à l'hôpital et que notre système hospitalier soit en surcharge. Et donc, il est extrêmement important. Aujourd'hui, le message est celui-là, c'est que les personnes âgées et les personnes fragiles reçoivent leur appel de vaccination contre le Covid et reçoivent leur vaccination antigrippale. Et on peut le faire le même jour, ce qui facilite les choses.
Jusque-là, il y avait 15 jours d'écart, c'était à peine au mois d'août. Et là, depuis peu, vous nous dites qu'on peut faire ces deux vaccins en même temps. On y perd un peu son latin.
Il n'y a pas de raison de perdre le latin parce que ça fait plus longtemps que ce que vous dites qu'il a été indiqué que cela était faisable, mais là vous avez partiellement raison, c'est que l'été du nord du monde est l'hiver austral, et donc nous pouvons bénéficier de l'expérience de nos collègues du sud du monde, l'Australie, l'Amérique du Sud par exemple, où ils ont pu tester cela et montrer qu'on pouvait tout à fait recevoir les deux vaccins le même jour.
Professeur,
vous savez, on apprend
De l'expérience.
On apprend de l'expérience. Mmh. Parfois, c'est difficile à faire bien percevoir ce qu'il en est, mais il est légitime de céder des informations qui nous arrivent régulièrement.
Alors, beaucoup de gens se posent la question, ici même dans le studio, pourquoi ne pas faire une dose de rappel pour tout le monde? Est-ce qu'il faut des catégories? Est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà plus vite?
Alors, tout simplement, il y a deux raisons. La plus importante, c'est que pour l'instant, et cela est suivi bien sûr très attentivement, mais pour les personnes en bonne santé âgées de moins de 65 ans, il n'y a aucune indication qu'avec le temps, il y ait un déclin dans la protection contre les formes graves de la maladie. C'est ça qui compte, c'est ne pas être gravement malade, aller à l'hôpital.
Donc il n'y aura pas de dose rappel pour toute la population à un moment donné?
Pas au 22 octobre, je crois qu'on est le 22 octobre, pas au 22 octobre. Maintenant, chaque semaine après semaine, mois après mois, les données scientifiques, les données arrivent. Et si, je ne sais pas, dans un mois, dans deux mois, à un moment donné, il apparaissait que, contrairement à ce que je viens de dire, mais peut-être au bout de 7 mois, 8 mois, 9 mois après la primo-vaccination, il y avait un début de perte d'efficacité contre les formes graves, alors il faudrait vacciner ces personnes.
Et on le saura quand, ça ?
Anytime, comme on dirait en anglais, c'est-à-dire à tout moment, à partir du moment où on a une information, un recueil scientifique. Mmh. Les informations arrivent en continu. Et donc on verra, mais ce n'est pas d'actualité aujourd'hui. Par ailleurs, je rappelle qu'il est bien de s'occuper aussi de la vaccination de la population mondiale. Moins de la moitié de la population est vaccinée. Et là, il y a une nécessité d'utiliser les doses dans ce sens.
Professeur Fischer, dans le cadre de la loi vigilance sanitaire qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale, un amendement du gouvernement pourrait permettre au directeur d'école de vérifier le statut vaccinal d'un enfant. Eh bien, ça suscite la polémique, en tous les cas l'interrogation sur justement le non-respect du secret médical. Est-ce que ça gêne le médecin que vous êtes ?
Je pense que cette polémique, ou début de polémique, je ne sais pas, me paraît assez excessif. L'important, c'est de faire en sorte que les enfants soient le moins privés d'école possible. Mmh. C'est l'objectif
qui me paraît essentiel.
Ouais. Donc toute mesure, à partir du moment où elle est faite de façon raisonnable, qui permet d'éviter des évictions scolaires, de limiter aux quelques enfants pour lesquels c'est nécessaire, oui, connaître le statut vaccinal, c'est pas le secret médical. Maintenant que tout ceci soit regardé avec attention, bien sûr, c'est normal.
En 10 secondes, est-ce qu'il faudra vacciner les enfants? Les Américains vont le faire, là, à partir de 5 ans.
Les Américains ont... En 10 secondes, c'est difficile de répondre, mais les enfants américains sont plus atteints que les enfants français. Il y a plus de morbidité, par exemple, d'obésité. Beaucoup plus d'enfants hospitalisés aux États-Unis qu'en France. Donc, c'est pas d'actualité en France.
C'est pas d'actualité
en France. On verra bien dans quelques mois.
Merci beaucoup, professeur Fischer. Bonne journée à vous.
Merci à vous deux. On vous retrouve dimanche, Benjamin Sportouche, au Grand Jury, à midi sur RTL, avec cette semaine Éric Zemmour. Et restez avec nous, Alain Fischer, si vous voulez bien, puisque vous êtes ce matin dans l'œil de Philippe Cavrivière.
RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
Allez, c'est à nous. Il est 7h55. Alain Fischer est resté pour vous écouter, Philippe Cavrivière.
C'est un peu normal, entre professionnels de santé, nous avons forcément des choses à apprendre l'un de l'autre. Alors, on a des spécialités différentes. Mm-hmm. Alain, c'est la vaccination, l'immunologie, la recherche en biologie. Et moi, qui ai longtemps été géo au Club Méditerranée, j'ai écrit une thèse qui fait référence sur les maladies sexuellement transmises par les touristes de l'Europe du Nord en village vacances, après les soirées sangria. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais en tout cas, elle fait date. Il y a un enfant malo dans le studio, ça tombe bien. Vous avez fait le serment d'Hippocrate, j'ai fait le serment d'Hypocrite, car je suis l'ami des invités tant qu'ils sont devant moi.
Alors, Alain Fischer vient de rappeler la nécessité de se faire vacciner contre le Covid et contre la grippe.
Et en matière d'immunologie, on peut écouter soit les professeurs d'immunologie sur les chaînes info, soit les détenteurs de licence 4 en PMU qui... eux aussi ont des avis bien tranchés. Alors je fais plus curieusement plus confiance au premier. Oui. Vous recommandez, chers confrères, de faire une double vaccination Covid plus grippe pour éviter les formes de pneumonie grave. Il faut vacciner en priorité les plus fragiles, les personnes âgées, les malades, les femmes enceintes. Si vous êtes en revanche une personne âgée enceinte ou si vous croyez attendre des jumeaux à 88 ans, passez, il est possible qu'on soit plus en face d'un cas de démence sénile. Oh, j'attends des jumeaux. Oui, c'est bien mamie, ça va t'occuper.
Bon, en tout cas, en matière de vaccination, il faut tenter de convaincre en permanence.
Oui, pour le moment, le gouvernement surveille particulièrement ses papis et mamies. Tu m'étonnes, ils n'ont pas envie de voir partir leurs électeurs à 6 mois des élections. Cela dit, les plus de 80 ans sont encore nombreux à ne pas être vaccinés, hein, vous le disiez, car la pédagogie avec nos seniors, elle n'est pas toujours évidente. Mamie, tu vas faire une troisième dose parce qu'on parle du 5e vague. Comment ? Non, je dis, tu vas faire la troisième dose pour la 5e vague.
Une troisième pause pour le cinquième vase ? Qu'est-ce que tu racontes comme connerie ? C'est pas simple, les dieux. Hein.
Non, en plus on appelle ça un rappel. Alors, grâce à la vaccination contre la grippe, en plus du Covid, on va peut-être avoir moins de victimes de la grippe cet hiver.
Mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces vieux s'il y en a moins qui meurent ? Ou qu'on va les mettre ? Alors l'idée, c'est de relancer l'économie, pas la vente de Stéradan. François Langlais me disait hors antenne, j'ai vendu toutes mes actions Apple, j'ai tout misé sur les couches confiance, troisième âge, ça va monter. Qu'est-ce qui se tient mal, François Langlais ? Alors, il a du flair, hein, notre François. Alors, a-t-on besoin d'une troisième dose ? C'est la grande question, Jamy. Pour l'instant, apparemment, le vaccin tient dans le temps. C'est pas du Made in China, hein. On l'a pas acheté chez Zara. C'est pas mort au bout de 3 mois.
Alors, on observe tout de même une hausse des cas en Lozère et dans la Creuse.
C'est fou, le Covid, hein. Tu t'en crois débarrassé et il revient toujours. On dirait Ségolène Royal, en fait, le Covid. Rassurez-vous, hein, dans la Creuse, le Covid fait toujours moins de victimes que le typhus et le choléra. Je rappelle que dans la Creuse, les habitants ont en moyenne 2 contacts humains par mois, dont un avec une chèvre. Je ne sais pas comment ils se démerdent pour se contaminer. Là-bas.
Bon, Jean Castex a annoncé hier soir des mesures pour aider les Français face à la flambée des prix de l'essence.
Oui, vous avez vu, il y a des super bonnes nouvelles. Déjà, les Français ont appris que s'ils gagnaient 2005 euros, bah, ils étaient riches. Ils n'étaient pas au courant hier soir avant 20h10. T'as 3 mômes, tu gagnes 2005 euros, ben t'es un zézé, t'es un riche. Voilà. Il est resté 10 minutes, Jeannot, il a dépensé 3,8 milliards. Heureusement qu'il n'a pas fait tout le journal. Le gouvernement, vous avez vu, François, c'est Liliane Bettencourt. Il fait des chèques. Vous vous rappelez Liliane Bettencourt, mamie shampoing, elle faisait des chèques à tout le monde. Alors, on a donc une espèce de chèque carburant depuis hier. On a fait le chèque énergie, le ticket restaurant, les chèques vacances. Dans 3 mois, on a des tickets pour le pain. En tout cas, grâce au chèque carburant, on va pouvoir aller bosser pour avoir de quoi payer les impôts qui financeront le chèque carburant. Il y a même le chèque mouchoir. François Langlais en paraît. François Langlais fait des vannes maintenant. Est-ce que moi je dis des trucs intelligents ? Non, merde. Chacun son domaine.
Il y a encore des Français pour qui les fins de mois sont difficiles. Selon la Fondation Abbé Pierre, ils sont 5 600 000 de ménages en précarité énergétique.
Alors, il y avait un article bouleversant dans Le Parisien. Vous l'avez lu certainement, Benjamin, qui parlait d'un petit couple de retraités qui coupait le chauffage dans son pavillon la nuit. La température descendait à 15 degrés. Les pauvres, vous rendez compte, les deux petits vieux, là, Maurice et Françoise. Maurice qui touche Françoise en pleine nuit, qui est froide et lui dit « T'es morte ?» « Non, non, j'ai juste froid. » La fausse joie pour Maurice toutes les nuits. Ben oui, oui.
Bon ben ce matin, c'était l'œil grinçant de Philippe Cavrivière, vous l'avez compris, oui. Ben maintenant, je vais tâcher de faire ma météo, si ça vous dérange pas. Et je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve lundi.
Tout pareil, j'espère
merci,
bien.
Merci Alain Fischer d'être resté avec nous, bonne journée à vous. Alors, notre météo, Louis Bedin.
Oui, ben ça va vers le mieux côté météo, avec le retour d'un temps sec quasiment partout. On aura même de belles éclaircies par moment, alors elles seront un petit peu plus belles peut-être dans le nord ce matin, dans le sud cet après-midi, et puis dans le quart sud-est, là, ça sera du beau temps tout au long de la journée, puisqu'on aura du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 80 km/h. Oui. Alors, avec cette amélioration progressive, bah, côté température, c'est plutôt en baisse ce matin, hein, avec des brouillards parfois givrants dans le centre ou encore dans le nord-est. Et cet après-midi, 11 à 14 degrés dans la moitié nord, c'est un petit peu juste pour la période. 14 à 18 degrés dans la moitié sud et 21 à 23 quand même près de la Méditerranée.
Merci beaucoup, Louis Bodin. A tout de suite pour le journal de 8h. Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, la consternation aux États-Unis après cet accident sur le tournage d'un western impliquant l'acteur Alec Baldwin.
Oui, le comédien aurait tiré en manipulant une arme, tuant une personne en blessant une autre. Les détails dès le début de cette édition. Le gouvernement a donc préféré une indemnité inflation au chèque carburant. 100 euros pour tous les Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. Ils avaient pourtant promis de changer. Les talibans viennent de décapiter une jeune volleyeuse de 17 ans. Raison invoquée, elle avait choisi de continuer le sport. Ils sont nos anges gardiens de la route. Pourtant, chaque semaine, 2 fourgons de patrouilleurs sont percutés sur l'autoroute. Ce sera l'enquête de la brigade RTL. Et puis le football, la belle soirée des clubs français sur la scène européenne et peut-être le match de la survie ce soir pour Claude Puel, l'entraîneur de Saint-Etienne.
Cyprien Signy et son surf de l'info.
Vous avez l'impression que rien ne va. Alors c'est pas faux, mais on surfe avec des raisons d'y croire.
Mais on se retrouve dès la fin du journal.
RTL Matin.
Breaking news tonight, Alec Baldwin fired the prop gun.
Tragedy on a movie set tonight.
Breaking news right now, actor Alec Baldwin fired the prop gun.
Les télévisions américaines en boucle, la nouvelle a provoqué un choc cette nuit aux États-Unis. L'acteur Alec Baldwin en tournage sur un western a tiré en manipulant une arme et tué une personne, une autre a été blessée. Baldwin, 63 ans, grande vedette américaine depuis ses débuts au cinéma à la fin des années 80. On citera notamment À la poursuite d'Octobre Rouge, d'où la stupéfaction ce matin. Bonjour Julien Fautra.
Bonjour.
Il semble, d'après les premiers éléments, que le tir soit bien accidentel.
Oui, puisque l'arme était apparemment un accessoire du tournage de ce western dans un ranch de l'État du Nouveau-Mexique. Alina Hutchins, 42 ans, directrice de la photographie, a été évacuée par hélicoptère vers un hôpital voisin et déclarée morte très rapidement. Le réalisateur du film, Joël Souza, 48 ans, a aussi été touché. Il est en soins intensifs. L'acteur Alec Baldwin, lui, a bien été interrogé par les enquêteurs mais n'a pas été arrêté. Aucune poursuite à ce stade n'a été engagée contre lui.
On s'interroge quand même sur le fait qu'il y ait, lors d'un tournage, des balles réelles à l'intérieur d'un pistolet.
Oui, protocole en théorie ultra strict, ce que précise à une chaîne de télé américaine l'accessoiriste du film Terminator où des milliers de coups de feu sont tirés. Écoutez Paul Zaïk.
Ce type d'arme est distribué à une seule personne par film et après la scène, ces armes doivent être rendues, resécurisées. C'est un protocole systématique pour éviter une arme chargée sur un film.
Évidemment, pas de balles réelles sur un plateau. Et pourtant, déjà, l'acteur Brandon Lee est décédé sur un tournage. Nous sommes en 1993, fils de la star des arts martiaux Bruce Lee. L'arme alors utilisée pour tirer sur lui durant une scène était censée ne contenir que des balles à blanc. Or, une balle réelle était restée bloquée dans le canon. L'enquête, à l'époque, avait conclu à une négligence.
Merci Julien Fautra pour ces premières précisions.
Il est 8h03, ce ne sera donc pas une prime ou un chèque carburant, mais une indemnité inflation.
Oui, d'une valeur de 100 euros, elle sera versée à tous les Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois, soit au total 38 millions de personnes. Une aide ponctuelle qui doit permettre de faire face à la hausse des prix du carburant, mais aussi à celle de l'énergie et de l'alimentation.
Ce qui veut dire que le gouvernement renonce donc finalement à baisser les taxes sur l'essence, Dominique.
Ce qu'espéraient pourtant de nombreux automobilistes pour qui la sanction financière tombe chaque semaine au moment du plein. D'où ces réactions mitigées recueillies hier soir par Nathan Bocard à l'issue des annonces.
Moustapha vient de faire le plein de son break familial et le prix qui s'affiche l'amuserait presque.
90 euros le plein, franchement, je me suis fait tuer là.
Et vous pensez que ces 100 euros, ça peut compenser un petit peu tout ça?
Non, je pense pas, mais bon, ça va faire du bien quand même.
Medina, elle, vient faire le plein après une journée de travail. Elle est déçue.
Je vois pas l'intérêt en fait.
Elle est infirmière et se déplace toujours en voiture. Donc cette aide de 100 euros ne représente pas grand chose par rapport à ses dépenses.
Dans le mois, je dois faire au moins 3 pleins. Je dépense au moins dans les 250 par mois.
Abdoulaye, lui, gagne à peine plus de 2000 euros net. Il ne touchera pas cette aide. Pour lui, la réponse du gouvernement doit donc être plus large.
C'est à la source qu'il faut régler le problème. Et c'est de baisser de manière globale pour tout le monde.
Réaction recueillie par Nathan Bocard hier soir, donc à l'issue des annonces de Jean Castex. En ce qui concerne les modalités pratiques, sachez que cette prime sera versée en une seule fois et automatiquement dès la fin du mois de décembre par les employeurs aux salariés et entre janvier et février pour les autres catégories, les retraités, les indépendants ou les apprentis.
Les vacances de la Toussaint démarrent donc ce soir et nous vous en parlons depuis plusieurs jours sur RTL. Les réservations explosent pour ces deux semaines de congés.
Ouais, les Français ont manifestement envie de se changer les idées, envie d'ailleurs et envie pour certains de prolonger un été qui ne nous a pas laissé que des bons souvenirs en matière de météo. Bonjour Étienne Baudu.
Bonjour.
Vous êtes à Bandol dans le Var où l'on attend un grand soleil pour la semaine à venir et les touristes qui vont avec.
Allez, je vous plante le décor. Je suis sur la promenade qui longe le port avec ses palmiers et ses terrasses de restaurants et le ciel bleu pâle immaculé qui jaunit à l'horizon. Et puis, ce sont les forains qui s'installent pour le marché du vendredi. Jean-Baptiste déballe sa pêche du matin.
Voilà, je suis en train de mettre mes dorades royales, je suis en train de mettre mes beaux rougets, mes encornés. Voilà, en attendant qu'il y ait du monde. Il fait un temps magnifique, franchement. On est en t-shirt, quoi. C'est un truc de malade.
Un peu plus loin, Damien le maraîcher s'apprête lui aussi à accueillir les touristes.
On va avoir tout ce qui est champignons sauvages, donc on va avoir tout ce qui est safrané. On a les girolles qui ont été ramassées il y a peu. Nous avons après les légumes. On a quelques degrés de moins, donc on va commencer à attaquer les légumes à soupe. Au niveau de la météo, on a une température qui est clémente. On a même des gens qui se baignent encore. Bon, ils ne sont pas de chez nous. Hein. On ne se baigne pas à cette température. Hein.
Bref, les deux semaines de Toussaint s'annoncent vraiment très bien. D'ailleurs, ici, le taux de réservation atteint 65% et devrait encore grimper. arriver dans les jours qui viennent.
Étienne Baudu depuis Bandol pour RTL.
Et vous serez sans doute nombreux à prendre le volant pendant ces vacances. Bison Futé table pour l'instant sur un week-end relativement calme.
Orange prévu ce vendredi dans le sens des départs en Île-de-France. Ce sera vert partout ailleurs, ce qui n'empêche pas la prudence pour vous, pour les autres et pour eux, les patrouilleurs, ces hommes et ces femmes qui sont là pour votre sécurité en mettant parfois la leur en danger. Plus de 2 fourgons percutés sur les autoroutes de France chaque semaine l'an dernier. C'est l'objet ce matin de notre brigade RTL. Bonjour Hortense Crépin.
Bonjour Dominique.
Vous avez rencontré Thierry à Saint-Arnoult en Yvelines. Lui a été patrouilleur pendant 27 ans et dirige maintenant une vingtaine d'agents sur l'autoroute A10.
Oui, et ce bruit que vous entendez derrière moi, c'est son quotidien. Des voitures qui filent à 130 à l'heure et dont il est séparé par seulement quelques plots. Alors il ne faut pas se sentir totalement en sécurité.
On arrive toujours à avoir des heurts. Il y a quelque chose qui fait que les chauffeurs de véhicules ne sont pas à leur conduite à 100%.
Et c'est le moins que l'on puisse dire. Sur les 131 fourgons percutés en 2020 sur les autoroutes, 2 accidents sur 3 étaient dus à la somnolence ou à l'inattention des conducteurs.
Thierry d'ailleurs a déjà été victime lui d'un accident, Hortense.
Oui, il ramasse ce jour-là un balisage avec un collègue.
J'ai traversé le tracé d'autoroute et en revenant, j'ai vu qu'il y avait un poids lourd qui arrivait et que le chauffeur ne regardait pas devant lui et qu'il se dirigeait droit vers notre camion. Donc j'ai averti mon collègue et on a sauté par-dessus les glissières de sécurité. Ça marque et à chaque fois qu'on retourne sur le tracé, on y pense.
Et Thierry confie ne pas toujours raconter à ses proches son quotidien risqué. Cette semaine encore, un fourgon a été percuté, le 31e cette année sur le réseau Vinci.
Hortense Crépin est l'hommage ce matin de la brigade RTL au travail essentiel de ses patrouilleurs.
Et puis on apprend à l'instant cette information étonnante sur le marché des véhicules. Les ventes d'hybrides simples ont dépassé celles des diesels sur le marché européen. C'est ce qu'annoncent les constructeurs européens. Dans un instant, la barbarie talibane en Afghanistan, une jeune volleyeuse de 17 ans a été décapitée. Ses coéquipières se cachent désormais pour survivre. A tout de suite.
RTL Matin.
RTL 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza. Elle s'appelait Majabine Hakami. Elle avait à peine 17 ans. Elle aimait jouer au volley. Elle était afghane.
Sauf qu'en Afghanistan, désormais, les femmes ne jouent plus au volley, ni au football, ni à rien d'ailleurs. Elles ne font plus de sport. Les talibans leur ont interdit. Majabine Hakami vient d'en payer le prix. Son corps a été retrouvé décapité. Un immense choc dans le pays, Bénédicte Tassar, où la jeune volleyeuse était très populaire.
Une jeune fille qui faisait partie de l'équipe nationale junior d'Afghanistan, qui jouait aussi pour le club municipal de Kaboul. Majabine Hakami était une vedette locale. Elle avait remporté plusieurs trophées avec ses coéquipières. Certaines de ses joueuses avaient participé à des émissions télé, avaient tourné des publicités. Mais voilà, d'après son ancienne coach, Majabine Hakami a été décapitée et sa famille forcée au silence sous peine de représailles. L'image de son corps martyrisé a pourtant circulé sur Internet et la presse locale a annoncé son décès il y a quelques jours. Et ce n'est pas fini. Selon l'ancienne sélectionneuse nationale, les talibans recherchent maintenant les autres joueuses. Ces dernières se cachent dans tout le pays entre le désespoir et la peur. Elles se sont débarrassées de leur équipement. Seules 2 d'entre elles ont pu fuir vers la Grande-Bretagne. La Fédération internationale de volleyball, au courant des faits, réclame maintenant des éclaircissements.
Bénédicte Tassar. Des nouvelles de la reine Elisabeth. On a appris hier qu'elle avait passé la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital pour y subir des examens médicaux. Elle est rentrée depuis au château de Windsor et elle garde un bon moral selon Buckingham qui assure que la souveraine s'est remise au travail.
Les notes ont-elles pris trop d'importance dans notre système scolaire? En tout cas, on se pose la question ce matin sur RTL.
Avec la nouvelle réforme du bac, le contrôle continu, les notes obtenues au cours de l'année comptent pour 40% dans la note finale. Or, tous les profs, tous les établissements ne notent pas de la même manière. Ce qui pose débat, l'Éducation nationale a donc demandé à chaque lycée d'élaborer un projet d'évaluation, une étape essentielle pour Bruno Bobkevich, secrétaire général du syndicat des chefs d'établissement.
On a tous croisé dans notre carrière d'élève un professeur qui notait sévèrement ou un professeur qui notait largement. Vous avez tous en tête des exemples. Bon, ça n'a pas changé, hein, sauf que cette question maintenant doit être davantage traitée parce que non seulement elle implique la question de l'orientation à travers Parcoursup, mais elle implique aujourd'hui aussi la question de l'examen et d'obtention d'examen. Maintenant, on a une vraie responsabilité sur la question de l'évaluation et des notes. Comment on note et qu'est-ce qu'on note? Comment on calcule une moyenne? Tout en sachant qu'à la fin, c'est l'enseignant qui reste maître de ce sujet dans le cadre de son autonomie pédagogique.
Propos recueillis par Marie Guerrier.
Et notez que le numéro 2 de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, sera l'invité d'RTL à midi pour répondre notamment aux questions que vous posez sur le contrôle continu et sur cette égalité en matière de notation. Rendez-vous à midi et demi.
10 mois de prison avec sursis, 75 000 euros d'amende requis contre Karim Benzema dans l'affaire de la sextape. Le ministère public a estimé qu'il était coupable de tentative de chantage sur Mathieu Valbuena. Ses avocats ont jugé la peine requise absurde, estimant que le tribunal voulait, je cite, « se payer une star ». Le jugement est attendu aujourd'hui.
Le football est plutôt une bonne soirée pour les clubs français engagés en Ligue Europe.
Ouais, Lyon a réussi à renverser un match qui était pourtant mal parti en s'imposant 4-3 sur la pelouse du Sparta Prague. Victoire également des Monégasques 2-1 chez les Néerlandais d'Eindhoven. Plus compliqué en revanche pour l'OM qui a dû se contenter d'un nul 0-0 face à la Lazio de Rome. Et puis notez aussi la victoire de Rennes en Ligue Europe Conférence qui s'est imposée en Slovénie face au club de Murat 2-1. À suivre ce soir, Saint-Étienne-Angers, en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Les Verts en crise, dernier du classement. 4 points seulement en 10 matchs. Et des supporters qui réclament le départ de l'entraîneur Claude Puel. Ce pourrait d'ailleurs être le match du sursis pour lui, Frédéric Perruche.
Le message en lettres blanches sur fond noir est explicite. Puel, on te laisse 24 heures pour démissionner. Signé par 3 groupes de supporters ultra. Un ultimatum qui traduit l'exaspération du peuple vert.
Le club est vraiment en crise. C'est la pire, je pense, prestation depuis au moins 20 ans. On n'a pas gagné un match. Même à domicile, on n'arrive pas à jouer. Pourtant, il y a le public qui pousse et tout. Je comprends pas.
Dépité ?
Ouais, dépité, ouais, vraiment.
Alors, Puel démission ? Pas d'autre choix pour Julien.
Pour moi, c'est Puel démission, ouais, clairement. Il a récupéré le club à la 20e place. 2 ans après, on est toujours à la 20e place. Pour moi, Puel, il doit partir. Il a plus sa place en tant qu'entraîneur. Quoi.
Quant à l'intéressé, Claude Puel, il a sobrement décliné l'invitation.
Ça fait un moment que je suis dans le football. C'est pas un monde de bisounours. Mais pour moi, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de problème. Mon boulot, c'est de rester concentré sur ce que j'ai à faire.
Mais en cas de défaite ce soir face à Angers, Claude Puel pourrait bien être limogé, malgré l'importance tant indemnité de licenciement que devra lui verser son club, autour de 2 millions d'euros. Non.
Rencontre à suivre dans RTL Foot dès 20h autour d'Eric Silvestro.
Bah, je crois qu'on peut dire que c'était le journal de Dominique Tenza.
Voilà.
Vous revenez pour le point de l'actualité ? Allez, une bonne tisane et allez. Ça va aller.
À 9h, merci beaucoup.
Mais oui, absolument, à tout à l'heure, il sera 9h. Dans un instant, Cyprien Signy surfe avec la positive attitude.
Oui, on va essayer de regarder les bonnes choses, il y en a.
Mais oui, du Premier ministre peut-être ?
Pas que.
Ah, pas
un
que.
Petit peu.
Très bien.
Ah, oui. Il était bon hier. Oh là.
Matin. Bonjour, c'est Bernard Lehu.
Bonjour, c'est Monique Younes.
Laissez-vous tenter.
Il y a 100 ans naissait Georges Brassens, un livre rare et précieux, éclaire l'œuvre et la personnalité du poète-chanteur, celui de la dernière survivante des Amis de la Première Heure, Agathe Fallet.
Et puis nous irons à Sète, la ville natale de Brassens, qui célèbre son poète préféré. À tout à l'heure, 9h, dans Laissez-vous tenter.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Signy.
5-4-3-2-1-0, c'est à vous Cyprien Signy.
Et oui, en cette veille de week-end, vous vous dites peut-être que niveau info cette semaine, bah, c'est un peu l'apocalypse, et c'est pas complètement faux.
La pénurie de pâte à papier.
Les prix des carburants.
Un appel à la grève lancé par des syndicats de cheminots.
Facture d'énergie.
Le pouvoir d'achat.
La tempête Aurore qui continue de souffler.
Ouais, non concrètement, c'est pas joie-joie, hein. Alors n'écoutant que notre courage ce matin, ben on a décidé de vous offrir des raisons d'y croire. Oui, alors déjà...
Sur les vacances, faut pas l'oublier.
Les vacances.
Les vacances de la Toussaint qui démarrent ce week-end.
Mais oui, c'est déjà les vacances, les amis. Bon alors, c'est pas les vacances, soleil et maillot de bain, mais les vacances quand même. Et puis, concernant le pouvoir d'achat, hier soir...
Nous allons décider d'une sorte d'indemnité inflation de 100 euros.
Ah, l'indemnité inflation, on l'avait pas vu venir celle-là. Bon, alors honnêtement, on n'a pas tout compris à comment ça marchait, mais le Premier ministre non plus, visiblement.
Des systèmes de tuyauterie qu'on va s'employer à régler et à accélérer.
Ouais, il va falloir me régler ce problème de tuyauterie. Mais ça fait des sous en plus et c'est le principal. Et puis niveau économie, bah en ce moment, en fait, ça cartonne. Hein.
Des embauches records en France.
La France n'a jamais autant embauché.
850 000 embauches depuis la rentrée.
Champion de l'embauche, la France. Et les constructions d'usines en France, eh ben ça cartonne aussi.
Ça a explosé de plus 84% entre le premier semestre 2020 et le premier semestre 2021. La réindustrialisation prend de l'ampleur.
Mais oui, vous voyez qu'il y a du positif. Mais et oui. Si vous en avez marre de payer l'essence trop cher,
Eh bien, bonne nouvelle hier.
La prime pour l'achat d'un véhicule électrique ne baissera pas comme prévu au 1er janvier. Elle restera à 6 000 euros jusqu'au 30 juin 2022.
Ouais, bon, alors le problème, c'est que l'électricité aussi, ça coûte cher. Mais bon, mais c'est bien quand même. Et puis, même dans le domaine de la médecine, il y a du bon.
Il s'agit d'un rein prélevé sur un porc et greffé sur un homme. Et c'est un succès, le rein a donc fonctionné normalement.
On peut même avoir un rein de porc un si bon on veut, c'est porc, génial, oui. Elle est pas belle
alors
la vie.
Week-end.
Même la météo est en train de nous régaler.
Ça y est, ça s'arrange. Fini les précipitations. Et puis tout ça nous annonce un week-end plutôt sympathique, oh, même sur le nord de la France.
Même sur le nord, Loulou, mais dites donc, de quoi se faire plaisir ce week-end. Surtout qu'en plus... Il y a le nouvel Astérix qui vient de sortir. Non, franchement, si avec tout ça, on vous remonte pas un peu le moral, moi, je m'en rends mon tablier. Et bah, bon courage quand même. Hein, pour voilà.
Vous nous avez fait beaucoup de bien, Swiss. C'est sans déçu. On se retrouve lundi.
Absolument.
Allez, formidable.
De bonne heure et de bonne humeur.
Avec beaucoup de plaisir, Cyprien.
Yves Calvi. RTL Matin.
Il est 8h20, bonjour Stéphane Israël.
Bonjour Yves Calvi.
Merci infiniment d'être avec nous, vous êtes le président exécutif d'Ariane Espace. Et si l'on vous reçoit ce matin, c'est parce que vous allez lancer ce soir deux satellites à 36 000 km au-dessus de nos têtes. Je précise qu'il s'agit de deux satellites de télécommunication. À quoi vont-ils servir exactement ?
Alors c'est très intéressant parce que ces satellites sont au cœur de la façon dont l'espace va répondre aux nouveaux défis du 21e siècle. Ces satellites vont servir pour celui de l'opérateur SES à de la connectivité, notamment quand vous êtes dans les avions, donc de la connectivité à Internet. Et le satellite Syracuse 4A, pour le ministère de la Défense française, va permettre à nos forces en opération d'être toujours en contact avec le commandement, qu'elles soient sur terre, sur air ou dans les airs ou dans les mers. Donc la connectivité d'un côté, la sécurité de l'autre, on voit que l'espace répond aux grands défis du 21e siècle.
Donc le grand public, d'une certaine façon, et de l'autre côté, nos armées, je vous ai bien compris.
C'est tout à fait ça.
C'est Ariane 5 hein, qui va donc lancer ces deux satellites. Elle ressemble à quoi cette fusée ? J'ai envie de vous dire, décrivez-la nous.
Oui, alors on va aller en Guyane française, au cœur de l'Amazonie, et effectivement, à partir de 22h01 ce soir, heure locale, pourvu qu'un certain nombre d'étapes aient été franchies, hein, parce que nous sommes le jour du lancement, il va falloir franchir des étapes pour aller au lancement. Il faut que la base spatiale soit prête, que les satellites soient prêts, que la fusée soit prête. Donc on va voir ça dans la journée.
La météo joue un rôle ?
Donc la météo joue un rôle, absolument, parce que c'est un des critères effectivement pour y aller ou ne pas y aller. Donc on va vérifier tout cela. Mais si tout va bien, à 22h01 cette nuit, un colosse, Ariane, donc 56 mètres de haut, 780 tonnes, va s'élancer depuis la Guyane. 780 tonnes, 56 mètres, pour mettre 10,2 tonnes de satellites en orbite. Vous voyez un peu les proportions, c'est vraiment un géant.
56 mètres, c'est la plus grande fusée que vous n'ayez
alors,
jamais lancée. Hein.
Effectivement, c'est la fusée de tous les records. Nous n'avons jamais lancé une Ariane 5 aussi grande. Et surtout, nous n'avons jamais lancé une Ariane 5 aussi puissante. Nous n'avons jamais mis des satellites aussi puissants en orbite. Et je vais même aller plus loin. C'est le vol le plus puissant vers l'orbite géostationnaire. Jamais aucune fusée n'a emporté 10,2 tonnes de satellites vers cette orbite. C'est un record mondial que nous nous apprêtons à faire cette nuit.
Alors, il y a ce record mondial qui est une perspective. Et en même temps, vous le savez, on se pose toujours des questions. On a l'impression que l'espace est déjà surchargé. Qu'en est-il vraiment ?
Alors, au-dessus de vos têtes, au-dessus de nos têtes, il y a à peu près 4500 satellites opérationnels en ce moment.
Et
en fonction, qui fonctionnent, à peu près 4500. Et effectivement, d'ici 2030, il pourrait y en avoir 27 000. Alors pourquoi ? C'est parce qu'il y a une nouvelle ruée vers l'espace qui est liée à des projets de ce qu'on appelle des très grandes constellations, de centaines ou de milliers de satellites, et qui seront d'ailleurs proches de nous, puisqu'ils seront en orbite basse, entre 500 km et 1500 km de la Terre.
Ils servent à quoi ?
Alors ces satellites, ils vont justement servir aussi à faire de la connectivité. On peut avoir accès à Internet grâce à ces satellites géostationnaires, mais de plus en plus grâce à des centaines et des milliers de satellites proches de la Terre, moins de délais de latence, meilleure qualité de service, encore plus augmentée, et c'est le projet des grandes constellations.
Donc GPS, changement climatique, objets connectés, enfin tout ce qui conditionne notre vie quotidienne en fait, aujourd'hui, c'est ça ?
Absolument. Donc d'un côté, les télécommunications, on vient d'en parler, et aussi, vous avez mis le doigt sur un autre sujet, la sécurité environnementale, la surveillance du changement climatique. Là, ce sont des satellites qu'on appelle d'observation de la Terre. Et effectivement, de plus en plus, nos satellites vont permettre de mieux comprendre le changement climatique. Un un variable climatique essentiel sur deux n'est observable que depuis l'espace. Ça veut dire qu'on ne peut comprendre le changement climatique dans toute sa dimension que depuis l'espace.
Stéphane Israël, tout ce que vous nous dites est passionnant et vous le faites avec enthousiasme. En même temps, on sait qu'aujourd'hui la concurrence est rude, que la conquête de l'espace entre dans une nouvelle ère. Comment on fait face à la concurrence, par exemple, de SpaceX? Ariane est-elle toujours compétitive?
Alors, Ariane 5 a encore quelques lancements à faire, on va le voir ce soir. Ariane 6 arrive. Ariane 6, c'est une fusée qui est 40% moins chère qu'Ariane 5, dont les campagnes de lancement sont réduites, donc on va pouvoir en faire davantage, qui est très capacitaire et qui est justement très adapté à ces grands projets de constellation.
Mais est-ce que vous allez pouvoir réduire les coûts?
Alors, c'est une première étape absolument majeure qui a été franchie. Nous avons, et ça c'est un paramètre essentiel, recueilli cet été le soutien de l'Agence spatiale européenne, et c'était absolument clé parce que la fusée d'Elon Musk est hyper soutenue. Quand M. Musk vend à l'État américain, c'est 2 à 3 fois plus cher que quand il vend sur le marché. Donc nous avions besoin, nous aussi, de soutien. Nous l'avons eu. Donc cette fusée sera compétitive et on va continuer de se moderniser, de se réinventer. On va préparer la suite du film. Il y a déjà des moteurs de nouvelle génération dans les usines d'Ariane Group. On teste la récupération de ce qu'on appelle les étages des fusées. Donc on est très déterminés pour innover et accélérer.
Vous allez procéder à des suppressions d'emplois?
Alors, il va y avoir des suppressions d'emplois chez Ariane Group. Le chiffre, c'est un peu moins de 600, 588. Oui. Ces suppressions d'emplois sont liées à un besoin de compétitivité.
Mais c'est la première fois de votre histoire. Hein.
Au début des années 2000, il y a déjà eu un plan au début des années 2000, mais il faut comprendre que c'est un deal. Compétitivité contre activité, on va aller chercher l'activité par la compétitivité.
Ce sont des départs volontaires?
C'est une rupture conventionnelle collective et elle fait l'objet d'une négociation. Voyons comment la négociation se déroule.
Vous êtes en train de consolider Ariane 6, comment ça se passe?
Alors, Ariane 6, effectivement, volera l'année prochaine. Ariane 6 a déjà beaucoup de clients publics et privés, donc les choses sont bien parties. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché spatial est en train de se démultiplier. On passe d'un marché de petite série à ce que j'appelle le Big Space, où il va y avoir énormément de lancements à faire. Et cette fusée est très adaptée au lancement de satellites par dizaines. On peut, dans une Ariane 6, mettre par exemple 70 satellites pour des constellations de connectivité. Et on est donc très confiant dans les perspectives d'Ariane 6. C'est sa capacité à accrocher le marché.
La France et l'Europe donc existent encore dans cet univers.
Mais la France
et l'Europe. Vous savez qu'on a une tendance à l'autoflagellation, mécontentement permanent dans notre pays. Et en même temps, quand on fait des trucs bien, on ne les met pas toujours en valeur. Donc
alors,
c'est comment trouver un équilibre.
Mais la France et l'Europe existent plus que jamais selon la façon de comptabiliser les dépenses pour l'espace. Nous sommes la 2e ou la 3e puissance spatiale mondiale. Nous avons avec le projet Ariane un projet européen tout à fait emblématique. Et la France et l'Europe ont pris récemment 2 décisions. L'Europe, cette volonté de consolider l'exploitation d'Ariane 6, qui est une très bonne nouvelle. Et très récemment, il y a quelques jours, le président de la République a annoncé qu'il y aurait 1,5 milliard pour le spatial, davantage dédié aux start-up. Et c'est très bien, on va travailler grands groupes et start-up. Il a évoqué une mini-fusée réutilisable. Donc la voie est tracée. D'un côté, Ariane 6. De l'autre, des projets disruptifs et innovants. On va marcher sur nos deux jambes.
Est-ce qu'on peut encore imaginer prochainement un vol habité européen?
Alors, ça serait évidemment un rêve merveilleux. Et effectivement, Thomas Pesquet n'est pas parti encore avec une fusée européenne. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons toutes les briques technologiques pour faire une capsule permettant d'embarquer un homme dans l'espace. Ariane 6 serait aussi parfaitement adapté à cela. S'il y a une volonté politique, mais ça a un coût, avant la fin de la décennie, on pourrait parfaitement avoir un Thomas Pesquet qui s'envole depuis la Guyane. Ça serait un rêve merveilleux.
Ariane et les startups travaillent ensemble. Je retiens aussi cette notion. Merci beaucoup Stéphane Israël. Donc ce soir, 2 satellites à 36 000 km au-dessus de nos têtes lancés. Alors évidemment, tout ça procède par étapes, vous nous l'avez rappelé.
Absolument.
Et on va suivre ce lancement avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Je me tourne vers Louis Baudin pour notre météo à 7 jours. Et il faut dire qu'en l'occurrence, ce que vient de nous expliquer Stéphane Israël conditionne aussi vos prévisions.
Hein. Exactement. Et puis il faut aussi ajouter que c'est une Ariane qui va envoyer le prochain télescope.
Absolument, le James Webb est le télescope le plus puissant jamais envoyé dans l'espace.
Et pourquoi? Parce qu'Ariane est la fusée la plus fiable aujourd'hui.
Et on vous retrouve dans un instant pour notre météo à 7 jours. Voilà, hommage est rendu à Ariane par Louis Baudin lui-même, c'est vous dire. Il est 8h28.
RTL Matin.
En attendant le départ d'Ariane et à 8h31 sur RTL, notre météo à 7 jours, Louis Baudin. Alors attention.
Oui. Soyons concrets, déjà, on a un week-end qui arrive. Comment est-il?
De vacances.
En plus de vacances. Ça se présente bien. Demain, on va avoir un temps sec, plutôt ensoleillé. Alors, quelques brumes le matin, quand même, on avance dans la saison. Mais globalement, un temps calme, pas besoin du parapluie. Et avec l'espoir d'avoir de belles éclaircies l'après-midi. Alors, c'est à coup sûr dans la moitié sud, notamment près de la Méditerranée. Dans le nord, ça se lèvera plus. plus ou moins rapidement, mais là aussi, on finira par avoir du soleil. Côté température, bah, gros contraste entre le matin où on aura quelques gelées, notamment du massif central au nord-est, et l'après-midi où ça remontera un petit peu par rapport à aujourd'hui. Donc on sera autour de 15 degrés dans la moitié nord, 20 degrés dans le sud. Bah eh oui, non, il faut pas rêver non plus. Et pour dimanche, bah, c'est la même chose, peut-être même un petit peu plus doux, puisque là, les températures pourraient de nouveau franchir facilement les 15 degrés dans la moitié nord, 20 degrés dans le sud. Et puis en fin de journée, arrivera une perturbation qui nous concernera lundi, avec donc après le week-end, cette dégradation qui ne devrait pas aller très loin, puisque dès mardi, on retrouvera un temps un peu plus sec. Et il est fort probable qu'en milieu de semaine prochaine, on ait de nouveau un temps un peu plus doux, un peu plus ensoleillé, avant peut-être une dégradation en fin de semaine, mais c'est trop loin. Donc on va retenir déjà un beau week-end, et puis une semaine qui s'annonce un peu partagée.
Bon, écoutez, moi je trouve ça très agréable. Quand vous me parlez sur ce ton-là, j'ouvre tous mes chakras, je nage dans le bonheur, je me dis le week-end va être merveilleux. Merci beaucoup Louis.
Bon week-end.
Je vous emmène en Russie.
D'accord. RTL autour du monde.
RTL autour du monde vous emmène cette semaine en Russie, frappée de plein fouet par la quatrième vague de la pandémie. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour Yves.
La Russie bat des records de contamination quasiment tous les jours. Près de 35 000 contaminations et encore plus de 1 000 morts hier.
Une complainte qui s'élève de la cathédrale Sainte-Basile. On pourrait croire à une sorte de lamentation pour les 1 000 Russes qui meurent tous les jours du Covid. Ce n'est en fait qu'un air traditionnel pour les touristes. Les chanteurs ne portent même pas de masque dans la petite chapelle, l'une des 9 que compte l'édifice, comme si le coronavirus n'existait pas au plus fort de la quatrième vague dopée au variant Delta. Les gestes barrières ont disparu, les moscovites se serrent la main et s'entassent dans le métro sans distanciation. Incompréhensible pour Anastasia Vassilieva, porte-parole du syndicat L'Alliance des médecins.
Les Russes n'aiment pas les règles. Il y a cette phrase. Ça veut dire « tout va bien se passer ». Bien sûr que ça me fait peur, mais je n'ai pas envie de rester les bras croisés. Je préfère agir pour qu'on soit tous protégés contre la maladie. Il faut se faire vacciner, nous devons l'expliquer, il faut que ça rentre. Que les Russes comprennent que d'une certaine façon, ils peuvent sauver leur pays.
Alors c'est l'autre explication, Pierre, le faible taux de vaccination.
Oui, le pays du Sputnik V, premier sérum au monde contre le Covid, a le même pourcentage de vaccinés que le Laos ou le Suriname, à peine 31% de sa population. Les Russes se méfient de leur propre vaccin. Résultat, du Pfizer s'achète au marché noir pour 75 000 roubles, environ 9 000 euros. Natalia habite Moscou, elle essaie désespérément de rassurer ses proches. Mais vous allez voir, les arguments des anti-vax sont les mêmes qu'en France.
Beaucoup de personnes qui croient que peut-être les vaccins ne sont pas assez développés, assez étudiés peut-être. Et juste, on a des personnes qui voudraient attendre peut-être une année ou deux années pour voir comment ça se passe. Mais je sais que, par exemple, en Europe, on a beaucoup, beaucoup de restrictions et les gens se font vacciner avec plus de volonté.
Mais il n'y a pas de mesure de restriction pour freiner l'épidémie, Pierre ?
Alors, elles arrivent, mais tout doucement. Vladimir Poutine vient d'annoncer une semaine chômée à partir de vendredi prochain pour inciter les Russes à se faire vacciner. Rien de plus au niveau national. Poutine ne veut pas aller à contre-courant de la reprise économique mondiale. Le quoi qu'il en coûte n'a pas de traduction russe. Pour autant, les deux plus grandes villes du pays veulent prendre les devants. Moscou va confiner les plus de 60 ans dès lundi. Pour Saint-Pétersbourg, ce sera un pass sanitaire à partir du mois de décembre.
Impressionnant, merci Pierre Herbulot, envoyé spécial d'RTL en Russie. Dans un instant, vous êtes comme ça. Ce matin, on ira à la rencontre de Lola Lorinfo. C'est une très prometteuse pilote française. Et puis ne manquez pas la face cachée de la Une avec Isabelle Choquet dans un tout petit instant. 8h35, bonne journée à tous.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Mais oui, 8h37, on vous retrouve Isabelle Choquet pour un petit plaisir coupable du vendredi, les fameux romans Arlequin.
Oui, vous pensiez que c'était passé de mode, hein, que les romans à l'eau de rose avaient été vaincus par des œuvres un peu plus sexy. Eh bien, pas du tout. À plus de 70 ans, la vénérable maison Arlequin se porte comme un charme. 700 titres par an, 50 millions de lectrices dans le monde et quelques rares lecteurs. Le Parisien Week-end nous raconte cette incroyable success story. Alors la recette est toujours la même, hein. Des hommes beaux, riches et arrogants, des femmes flamboyantes. Il y a la rencontre, le jeu de la séduction, la déclaration et la plupart du temps, un mariage, happy end garanti après bien des obstacles surmontés. Des histoires comme celle-là, il s'en est vendu 7 milliards dans le monde depuis la création des éditions Arlequin. Oui, 7 milliards. Si on les alignait tous, notre bibliothèque ferait deux fois le tour de la Terre. C'est ce que dit la directrice générale d'Arlequin France, dont le chiffre d'affaires flirte tout de même avec les 15 millions d'euros. Tout a commencé au Canada en 1949. Un certain Richard Bonnet Bonnie Castle crée une maison d'édition pour rééditer à bon marché des polars, des westerns et quelques histoires d'amour tragiques. Malin, il se dit que pour faire fortune, il faut s'adresser à celles qui lisent, les femmes. Il demande donc à son épouse Mary ce qui lui ferait plaisir et elle répond ce que nous voulons, de très belles histoires d'amour qui se terminent bien. Sitôt dit, sitôt fait, Richard rachète une maison spécialisée dans la romance. Étape suivante, vendre en masse. Les romans Harlequin investissent alors les supermarchés. Entre une boîte de conserve et un paquet de pâtes, la ménagère se laisse tenter par ses couvertures sensuelles, une étreinte passionnée au premier plan, un paysage exotique en fond, tout un monde d'évasion pour quelques dollars seulement et en moins de 200 pages. Roi du marketing, Bonnie Castle décline certains titres en hors-série, offerts avec des paquets de lessive façon cadeau bonus. Et ça fonctionne tellement bien qu'il part à la conquête du monde. Harlequin s'installe dans une dizaine de pays, dont la France, en 1978. Complainte sicilienne. C'est le premier roman Harlequin vendu en France à 6 francs à l'époque. L'histoire de Ravenna, jeune femme arrachée à une vie paisible pour être mariée à Marc Di Curzio, un impitoyable Sicilien. Bon. Depuis, Harlequin a décliné tous les fantasmes féminins. Dans la série Blanche, les héros sont des médecins. Dans la série Victoria, il n'y a que des ladies intrépides. Les romans suivent l'air du temps. On a vu apparaître des vampires et des loups avec le succès de la série Twilight. Et puis le succès de 50 nuances degrés a fait souffler un petit vent érotique dans les pages des collections Rouge, Passion, Sexy et Audace. Oui, à tout ça. Mais si Harlequin a toujours la cote aujourd'hui, c'est que l'éditeur maîtrise parfaitement les procédés addictifs. Avec des abonnements, des promos, des packs mensuels, des e-books gratuits, 600 titres sortent chaque année en France, essentiellement des traductions. Une étreinte sous la neige, l'éclat d'une passion, retrouvailles à Blakely Castle. Historiquement, les scènes osées étaient édulcorées pour les Françaises avec des métaphores à base de fleurs et de boutons. Bon, plus maintenant, hein, mais quand même, on n'entre jamais dans les détails. Tout est dans le ressenti des personnages. Dès l'instant où elle pensa à lui, son esprit s'embruma, son rythme cardiaque s'accéléra et elle ferma les yeux, les membres engourdis par une faiblesse généralisée. Vous reconnaissez le style, j'imagine. Oui. Les lectrices d'Harlequin savent très bien qu'elles sont la risée des bibliophiles, caricaturées en midinette, en mémère achat ou carrément en frustrée. Oui, dit Gwenlan, c'est vrai, quand on commence, on sait très bien que l'amour va triompher, mais après tout, quand un lecteur commence un polar, il sait bien qu'à la fin, le crime sera élucidé. Harlequin d'amour et d'eau de rose, reportage à lire dans Le Parisien Weekend.
Quel bon moment, merci beaucoup. Isabelle, on se retrouve lundi.
Un bon week-end, à lundi.
À lundi matin.
RTL, vous êtes comme ça.
Alors que se dispute ce week-end le Grand Prix de Formule 1 des États-Unis, nous partons ce matin en Normandie pour faire la connaissance de Lola Lovinfo. Ce nom ne vous dit certainement encore rien, mais cette adolescente de 15 ans pourrait bien être dans les années à venir la première française pilote de Formule 1. Frédéric Veil, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Frédéric, vous êtes le spécialiste F1 sur RTL et vous êtes allé à la rencontre de cette jeune et prometteuse Lola Lovinfos.
Oui, cela s'est passé il y a quelques jours chez ses parents, près de Rouen, où Lola vit du lundi au mercredi, car le reste de la semaine, elle part s'entraîner ou disputer le championnat de Formule 4 en Espagne. Mais avant toute chose, il y a des priorités, et la priorité, c'est l'école.
Je suis toujours partie du principe que les études, ça compte autant que le sport auto. Après, il faut toujours forcément la motivation de le faire seul chez soi. Mais je me débrouille très bien pour allier les deux. En tout cas.
Mais la vie de Lola, c'est le plus souvent sur quatre roues que cela se passe. Elle, qui a 9 ans, s'est assise pour la première fois dans un karting.
Quand je suis sortie du karting pour la première fois, j'ai tout de suite dit à mon père que je voulais faire des courses. Et je lui ai dit, est-ce qu'on peut revenir le week-end prochain? Je voulais faire que ça. C'est comme ça que c'est parti.
Ça t'a tout de suite plu?
Ouais, vraiment. Le fait de me battre contre le chrono, contre les garçons, j'avais tout trouvé dans un seul sport, tout ce qui me plaisait. Donc, ouais.
Et se battre contre les garçons, c'est désormais ce qu'elle fait au volant de sa Formule 4, même si, au début, ce n'était pas si facile que cela.
Quand j'ai commencé, mon premier équipement et mon premier kart était tout rose. Sur les départs, par exemple, j'étais obligée d'une cible. Quand c'est une fille devant un garçon, ça leur donne un peu plus la rage, je pense. Après, il suffit de se faire respecter sur la piste, de faire comprendre qu'une fille ou un garçon, c'est pareil. Et c'est rentré dans l'ordre, on va dire.
Et avec cette mentalité-là, eh bien, Lola Lovinfos vise désormais plus haut. Et plus haut, c'est la Formule 1.
Je me dis souvent, j'ai le temps, on verra dans le futur, mais ça arrive beaucoup plus vite que je ne le pense, parce que mes débuts en Formule 4, je ne les voyais pas arriver si tôt. Je pensais peut-être continuer une année de plus en karting, au final non. Mais on sait tous dans ce sport que la Formule 1, c'est un milieu très fermé. Mais le rêve ultime reste bien sûr la Formule 1.
Et tout cela bien évidemment avec le soutien de ses parents.
On croise les doigts pour qu'elle croise des bonnes personnes et puis qu'elle fasse de beaux résultats, qu'elle ait une bonne étoile au-dessus de sa tête.
Même si c'est votre fille, elle vous impressionne?
Tous les jours, tous les jours.
C'est du bonheur, c'est de la fierté?
Ah oui, grande fierté, énorme.
Pour ça, il faut qu'elle aille vite sur un circuit. Et ça oui. Vous fait peur?
Oui, ça fait toujours peur. On y pense forcément. Il y a quand même une part de stress là-dessus.
Tu y penses, toi, là, quand t'es dans ta voiture?
Je préfère, comme ma maman a dit, garder ça dans un coin de ma tête, bien caché et ne pas trop y penser.
À ce jour, seules 5 femmes, toutes étrangères, ont couru en Formule 1.
Merci Frédéric Veil pour ce joli portrait. On va suivre la carrière de Lola avec attention. Et vous Frédéric, on vous retrouve dès ce week-end pour suivre sur RTL le Grand Prix de Formule 1 des États-Unis. Et autre rendez-vous à ne pas manquer, celui du journal inattendu. Demain à 12h30, le pilote français Romain Grosjean sera l'invité de Naïs Bouton. Dans un instant, Laurent Gérard.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jeanne.
Bonjour Monsieur Calvi.
Tiens,
tiens, bonjour Marine Le Pen.
Apportez-moi des tournevis, des burins et des pieds de biche, madame.
Bah, pourquoi faire ?
Je vais démonter une à une toutes les éoliennes de France. Allez, hop, 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 hop. Comment mettre ma trousse à outils, madame ? Mais si ça ne suffit pas, j'utiliserai Louis Alliot comme marteau pilon.
Écoutez, calmez-vous, certes, vous avez promis de démonter toutes les éoliennes si vous étiez élu, mais ce n'est pas encore gagné.
C'est ça, allez, allez, videz vos poches, madame, sortez vos barrettes de shit. Et que Cyril Lignac découpe devant moi son gâteau au chocolat. Un gâteau au chocolat, tu parles, je suis sûr qu'il a fourré du cannabis, son space cake. Allez hop, Lignac, face au mur, main en l'air et fouille au corps.
Bon alors d'accord, vous avez déclaré que si vous étiez élue présidente, vous feriez une lutte sans merci contre le trafic de drogue. Mais je le redis, ce n'est pas encore gagné. J'ai l'impression que depuis qu'Éric Zemmour vous devance dans les sondages, vous êtes nerveuse.
Mais non, madame, je suis très calme, madame. Allez, allez, tout le monde par terre, je vais péter le studio.
Mais écoutez, calmez-vous, Marine Le Pen. Il y a peut-être une solution pour rattraper votre retard sur Éric Zemmour. Certains au Rassemblement National vous y encouragent d'ailleurs. Durcir votre discours sur l'immigration.
Mais vous avez raison, madame. Qu'on affrète un charter pour expulser l'individu au nom étranger qui veut voler mon boulot de noël française de souche, monsieur Zemmour.
Et vous allez l'expulser où, exactement?
Sur la Lune, allez. Du balai, le pique-assiette. Dehors, l'intrus.
Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit encore?
Ah, mais c'est pénible, ce machin-là, vraiment. Hein.
Ah, bonjour Nicolas Sarkozy, c'est encore votre bracelet électronique?
À chaque fois que je passe un portique, je sonne. Ça m'énerve. Mmh. Je vais demander à Isabelle Morini-Bosque comment elle fait pour jamais biper. Hein.
Isabelle Morini-Bosque n'a pas de bracelet électronique.
Bah, écoutez, vu la quincaillerie qu'elle se trimballe autour du cou... Je ne sais pas comment qu'elle fait pour pas sonner aux aéroports. Hein. Vous savez comment qu'on l'appelle, Orly Sud? Isabelle Morini-Bosque?
Eh ben non, c'est pas.
Le manège à bijoux.
Ah oui. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites là alors que c'est ouvert lundi un nouveau procès qui vous concerne?
Quelle indignité. Vous voulez que je vous dise quoi qu'on me reproche encore? Ben, je vais vous le dire. Comme quoi que quand j'étais président, j'aurais commenté des sondages avec de l'argent public pour que la Sofresse et l'Ipsos Mayonnaise me disent que j'étais le plus beau et le plus fort. Non, mais franchement, qui peut croire une chose pareille?
Bah, la justice, manifestement.
Mais ils en ont pas marre de me chercher des pots dans la tête. J'ai pas besoin d'institut de sondage pour me dire comme quoi que je suis le meilleur. Il suffit que je demande à la petite Julia. Tenez, je l'ai enregistrée ce matin. Je vous passe là-bas.
Ah, très bien.
Vous voulez que je vous dise c'est qui le plus beau et le plus fort? Ben, je vais vous le dire, c'est mon baba. Et les juges, ils sont cacaboudins tout pourrites. Oh, excusez-moi, la fin, c'était pas prévu. Elle est taquine, ma Julia.
Oui, quoi qu'il en soit, vous avez indiqué que vous ne vous rendriez pas aux audiences de ce procès.
J'ai autre chose à faire, je suis débordé en ce moment.
Pourtant, depuis votre précédente condamnation, vous êtes assigné à résidence.
Justement, je dois lire tout mon livre que je viens de sortir.
Ah, c'est bien ça, oui.
Faut bien que je sache que j'ai écrit dans Promenade, 300 pages, 29 euros, en vente dans toutes les bonnes librairies, même celle à côté du Palais de Justice.
François Bayrou n'apprécie pas l'initiative d'Édouard Philippe de créer son propre parti au sein de la majorité présidentielle, un parti qui s'appellera Horizon, vous le savez.
Hop, 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 hop.
Ah, bonjour François Bayrou.
Franchement, le nom du parti d'Edouard, c'est nul. Ah. Horizon. On dirait le nom d'une salle de séminaire pour commerciaux en chemisette. Jean-Pierre, peux-tu me dire où a lieu Le café d'accueil, bien sûr, Jean-Michel, il a lieu dans la salle Horizon. Vous voyez, c'est ringard.
Voilà. Bah, c'est vrai que dit comme ça, on comprend. C'est vrai que vous, vous êtes doué pour trouver des noms de partis politiques.
Absolument. Mmh. Le MoDem. Ça, c'est cool, le MoDem.
Oui.
À l'époque, j'avais hésité avec Commodore 64 ou Apple 2C.
Oui, sauf que les modems d'ordinateurs sont tombés totalement en désuétude depuis l'apparition, il y a longtemps maintenant, de la DSL et de la fibre.
Voilà pourquoi. Pour contrer l'horizon d'Edouard, mon modem va retrouver son nom d'antan.
Mmh. Le Parti démocrate, donc.
Oui, le PD. Un PD qui sera bien au centre. Et nous pratiquerons l'ouverture grâce à un nouveau courant centriste, le Parti ouvrier populaire écologique républicain et social.
Oui, le Poppers, donc.
Absolument.
Je vois qu'il y en a qui connaissent. Alors, dans un ouvrage qui vient de paraître, le dessinateur allemand Ralph Koenig réinvente Lucky Luke en le plongeant dans un univers résolument gay. Nous avons imaginé comment le célèbre cow-boy aurait appris les manières viriles du Far West à la façon du duo Poiré-Cerro de La Cage aux Folles.
Oh ben mon petit bonhomme, hein. Oh ben si tu veux jouer les beaux cow-boys solitaires, va falloir que tu apprennes à tenir ton pistolet comme un mâle. Hein. Allez, on se tient droit sur son cheval, pas comme une chochotte. Oh, mais qu'est-ce qu'il prend Bon alors je vais t'apprendre moi, à poser les fesses sur un coussin en velours, comme une poule de luxe. À la dure maintenant, les fesses directement sur la selle. Prends ton pistolet.
Ah oui.
Ferme, mais pas brutal, voilà. Pas comme, bon, enfin, pas comme ça, le pistolet, pas à deux doigts, ça, c'est pas une clochette, c'est un colt. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu une balle dans le pied, ma paire de bottines en poney, hein, elle est foutue. Oh, j'y arriverai jamais, je vais percer mes bottines, et je fais peur à mon bichon rentemplant. Oh, mais commence pas à pleurnicher. Et voilà, il a percé sa bottine, oh, bah, c'est malheureux, d'accord. Mais dans une circonstance comme celle-là, hein, tu dois réagir en homme. Tu prends ton pistolet, voilà, bien viril. Fais-moi John Wayne. Oh non, pas John Wayne. Pas John Wayne. Il ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. Catherine Deneuve, oui, mais pas John Wayne. Fais-moi John Wayne immédiatement. Oh, bon, John Wayne. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh non, mais c'est, c'est ton ombre, Lucky Luke. Tu vas tirer plus vite qu'elle, plus vite que ton ombre. Un Dalton. J'ai raté mon ombre. J'ai descendu un Dalton. Je crois que c'est Avril le plus mignon en plus. Hein. Oui, bon, je crois que Jolly Jumper a raison. On ferait mieux de filer avant que la shérifesse arrive. Hein. Il paraît qu'elle n'est pas commode. Oh non, pas elle. Oh non, pas la shérifesse. Au secours. Au secours.
Ah là là, quel plaisir. Vous savez que vous retrouvez Laurent Gérard d'abord en podcast sur le site RTL.fr et puis surtout pendant le week-end dans les matinales de Vincent Perrault et Stéphane Carpentier. Il sera bien entendu aussi avec nous dès lundi. Bon, on va préparer un bon pot-au-feu. C'est un pot-au-feu d'automne ce matin avec Cyril. Vous voulez bien éplucher les légumes avec moi, Isabelle?
Ah, volontiers. Comment vous dire?
Mais si, je suis sûr que vous allez faire
j'adore
ça très bien.
J'adore éplucher les légumes.
Ben voilà, vous voyez, c'est une bonne nature, Isabelle Morini-Bosse. Moi, je l'ai toujours dit. Il est 8h54. On se retrouve dans un instant avec Cyril.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 8h57. Bonjour, cher Cyril Lignac.
Bonjour.
Ce matin, c'est Elena qui vit à Mulhouse et qui vous demande à quoi ressemble votre pot-au-feu en ce moment. C'est formidable parce qu'elle est open, Elena. Voilà, votre pot-au-feu du moment.
Alors, ce qui est génial déjà, c'est que je sais qu'Isabelle Morini-Bosse va m'aider à éplucher les légumes.
Bah ça, oui, c'est une très bonne
donc histoire. Ça, déjà, c'est bien.
Ouh là là.
Pour faire un bon pot-au-feu, il faut déjà choisir une bonne viande.
Ouais.
Donc il faut soit de la queue de bœuf, soit du paleron, soit de la joue, soit du gitalos. Alors en fait, c'est des parties du bœuf qui méritent de cuire longtemps et qui sont hyper savoureuses.
Voilà. Faut que ça plop-plop.
Pour ça, exactement. Comme ça, je prends une grande marmite, je mets de l'eau, je mets une bonne poignée de sel, du poivre en grains. Des clous de girofle que je peux mettre dans une boule à thé où on peut les laisser comme ça parce que ça donne du goût.
Bah oui.
On fait un petit bouquet garni avec du thym, du laurier. On ficelle tout ça. On met à l'intérieur de l'eau. Oui. Et là, on ajoute la viande. Et donc, on va la faire blanchir. C'est-à-dire qu'on va commencer à la cuire. Mmh. Il va y avoir des impuretés qui vont sortir. Et là, on va les écumer. C'est-à-dire qu'il y a toujours le petit mélange qui ressort, qui est un peu l'albumine, en fait. Donc ça, on veut l'enlever pour avoir un bon bouillon.
Mmh.
Et ensuite... Là, on cuit pendant 1h30, tranquillement, pour que la viande cuise doucement.
Parfait.
On réécume un petit peu la viande. Et là, on ajoute les carottes, les navets, les oignons, des poireaux. Et là, on laisse cuire 2 heures à petit bouillon. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait toujours de la viande qui cuise délicatement, en fait, pour que l'eau prenne le goût de la viande et donc nous donne un bon bouillon pour faire un bon pot-au-feu. Et alors après, on le mange avec des cornichons, un peu de moutarde. Et puis la petite astuce, c'est que s'il nous reste de la viande, ben moi, le lendemain, je fais un hachis parmentier avec.
Mmh. Bah là, vous
avec
m'avez
des petites
séduit.
Pommes de terre. Oui. Et ouais, parce que ce qui est bien dans le pot-au-feu, c'est que c'est un plat de famille. Ce qui est bien, c'est que c'est le vrai plat d'hiver, là, il commence à faire froid. Et ce qui est génial, c'est qu'on en a pour le lendemain. Et ça, c'est quand même le petit bonheur.
Je crois que vous avez réussi votre opération pot-au-feu d'automne. On va faire un point sur l'actualité dans quelques instants avec Dominique Tenza. Juste une toute petite chose,
oui.
Quand même. Je crois que c'est Bernard Loiseau qui, lui, préparait un bouillon la veille avec des queues de bœuf. Ça vous dit quoi, ça?
Ouais, si on le prépare la veille, ensuite on a un bouillon qui est encore plus concentré, en fait. Donc si on commence à le pré-cuire la veille, ben forcément on est en 2 cuissons.
Voilà, c'est plus goûteux.
On cuit d'abord la viande. Et oui, c'est plus goûteux. Parce qu'il n'y a rien de meilleur qu'un bouillon qui est réchauffé.
Et une dernière chose,
donc,
vous savez
plus
que
on cuit.
Une dernière chose, vous savez que je suis obsessionnel. Vous n'avez pas mis de laurier dans votre premier bain, ça m'a choqué. Une petite feuille de laurier.
Ben là... Oui, oh non, mais je ne veux pas vous fâcher. On va mettre une petite feuille de
non, mais si, vous savez, vous êtes ma référence. Je vous dis à lundi. Et d'ici là, on se retrouve sur le site RTL.fr. Merci Cyril, il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
De l'actualité ce matin avec Dominique Tenza.
D'abord, cet accident mortel sur le tournage d'un western aux États-Unis impliquant l'acteur Alec Baldwin. Le comédien aurait tiré en manipulant une arme. Il y a un mort et un blessé.
Et nous allons y revenir en détail sur ce qui semble donc être un accident de tournage, qui est extrêmement rare, avec Stéphane Boutsock dans quelques instants.
Si certains en doutaient encore, la révolution automobile est définitivement en marche pour la première fois sur le marché européen. Les ventes d'hybrides ont dépassé celles des véhicules diesel. Dans ce contexte, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, annonce ce matin le maintien jusqu'au 1er juillet de la prime à la conversion et du bonus à l'achat d'un véhicule électrique ou diesel. Électrique ou hybride, évidemment. L'autre prime ce matin, c'est celle annoncée par Jean Castex pour aider les ménages les plus modestes à faire le plein de carburant, de course et à payer leur facture d'énergie. 100 euros versés à partir de décembre pour tous les Français gagnant moins de 2000 euros net par mois, présenté comme une indemnité inflation. Le lancement aujourd'hui de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, public prioritaire les plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes atteintes de certaines pathologies, mais aussi les soignants. Il sera possible en même temps pour ceux qui le souhaitent de recevoir un rappel du vaccin anti-Covid. Et puis le football avec une soirée plutôt réussie pour les clubs français sur la scène européenne. Victoire des Lyonnais et des Monégasques et match nul pour l'OM face à la Lazio de Rome. Rennes est allé battre Murat en Slovénie.
Vous avez été héroïque. Une bonne tisane et au lit. Merci Dominique Tenza. Bon week-end et bon repos.